Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Europe 1, 4h57. Bon réveil à toutes et à tous, c'est lundi, courage. Lundi 19 octobre, on démarre la semaine ensemble avec toute la bande du 5-7. Tout le monde est là. Ambline oui. Roche, Paul Lassen.
Bonjour.
Présent,
bien
bonjour.
Bah,
très bien.
Une image pour commencer. C'était hier, place de la République à Paris et partout en France. Des images, des sons qui nous rappellent janvier 2015 avec ses crayons dans la foule et ses pancartes. Je suis prof, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Après l'horreur de l'assassinat de ce professeur vendredi, on va largement y revenir ce matin. Bien sûr, les dernières annonces, les dernières informations du Conseil de défense hier soir. Et cette mobilisation dans la rue et sur les réseaux sociaux aussi, Paul.
Oui, et les professeurs ont pris leur téléphone pour rendre hommage à Samuel Paty. Beaucoup d'hommages et on se projette un peu sur la suite, comment on va pouvoir enseigner. Je vous raconte ça dans 45 minutes.
Et justement, c'est un prof qui sera avec nous tout à l'heure à 6h40. Jean-Rémy Girard, il est prof de lettres. Il préside le SNALC, c'est le deuxième syndicat dans le secondaire. Comment enseigner aujourd'hui ces sujets-là? C'est une vraie question, on en parlera avec lui. Puis un autre rendez-vous ce matin, la première interview du ministre de l'Intérieur depuis l'attentat. C'est sur Europe 1, dès 8h, Gérald Darmanin face à Sonia Mabrouk. Ombline, on va respirer quand même avec un peu de musique ce matin.
Oui, il trace un trait d'union entre les Landes et l'Amérique. Deux Gascons, fermiers, éleveurs et rockers. Ils cultivent de l'authentique, prônent l'insoumission et jouent du blues rock brut. Via Inspecteur Clouseau. It won't be easy
going back to always. You got to remember. Inspecteur Clouseau, ils auraient pu être avec nous pour les doigts dans l'assiette aussi finalement,
oui,
parce qu'ils sont
vrai.
Aussi fermiers dans la partition.
Ils élèvent les oies.
Voilà, ce sera juste avant 6h, 6h10, à tout à l'heure Ambline. Vos autres rendez-vous ce matin, 5h40, ils sont en première ligne aussi face au Covid. Comment mieux reconnaître les aides à domicile, maillon essentiel de la prise en charge des personnes âgées, mais pour beaucoup oublié des primes de la première vague de l'épidémie. Une revalorisation est annoncée, est-elle suffisante? À 5h40, j'appellerai Pascal Chanvert. Il préside l'association des directeurs au service des personnes âgées. Puis Laurent Voulzy est de retour, il sort un nouveau single aujourd'hui et il poursuit sa tournée dans les églises. Et bien justement, c'est un homme d'église qui le connaît bien, qui a même travaillé avec lui, qui sera tout à l'heure mon invité inattendu à 6h15. Voilà pour le programme. Allez, on commence avec le temps avec vous. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Sébastien, bonjour à vous tous chers amis. C'est une journée que l'on va aimer et que nous allons aimer tous. Pourquoi? Parce qu'il y aura pas mal de soleil, il y aura surtout de la douceur, avec quelques réserves en ce qui concerne la couleur du ciel que j'installerai tout à l'heure sur le Languedoc et le Roussillon. Quant aux températures, je parlais de douceur, entre 14 et 24 degrés s'il vous plaît. 14 à Lille et 24 à Biarritz, en passant par 15 à Paris. On en reparle tout à l'heure.
À tout à l'heure Laurent Cabrol.
Europe Matin. Le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, bon réveil, on démarre la semaine ensemble. Toute l'information à retenir ce matin avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h sur Europe 1.
Ça rassure, ça émeut aussi, ça réconforte sur la société, sur la force du vivre ensemble.
Rassemblés physiquement et dans les cœurs, des dizaines de milliers de manifestants pour la liberté d'expression est venu rendre hommage au professeur assassiné vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. Dans l'actualité, le Covid et la crainte des EHPAD face à la deuxième vague et au manque de personnel. Et puis, nous entendrons la voix de Laurent Voulzy. Il chante la Lorelai, prénom légendaire dont il nous racontera l'histoire.
Les sports à suivre avec Jérôme Lacroix et notre pressing du matin. Et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs. Ce matin, nous serons en Auvergne pour parler du soin des bêtes avec l'un de nos éleveurs. Bienvenue, il est 5h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gouvernement promet de mieux protéger les enseignants et les établissements scolaires. Le sujet a été abordé hier soir durant les 2h30 du Conseil de défense à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Contre l'islamisme, le chef de l'État entend accélérer. Le projet de loi contre les séparatismes va être enrichi. Le président demande à ses ministres de lui faire des propositions et il affiche une grande fermeté. Adrien Beck.
À partir de ce soir, les islamistes ne dormiront plus tranquilles en France. Ce sont les mots martiaux d'Emmanuel Macron Macron hier soir en conclusion du Conseil de défense. Décisions immédiates comme en réaction à l'attaque de vendredi. Dans les prochaines heures, arrestations et contrôles viseront des personnes et associations qui propagent un discours de haine. Pour le reste du concret, il faudra attendre un peu. Le président veut adapter le projet de loi sur le séparatisme dont il a présenté les grandes lignes il y a 15 jours. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation devront lui faire des propositions dans les prochains jours. Le sujet des réseaux sociaux sera aussi traité pour détecter les indicateurs de passage à l'acte, notamment volonté présidentielle, aller vite et fort. On est sous pression, les hommages, ça ne suffit plus, confie un conseiller. D'autant que l'opposition est déjà en embuscade pour instruire un procès en inaction.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1, un hommage national aura lieu pour l'enseignant assassiné Samuel Paty, ce sera mercredi. Le lieu n'est pas encore défini, on sait simplement qu'il sera emblématique de la République.
Depuis vendredi soir, on a vu des milliers d'hommages sur les réseaux sociaux, dans les rues. Une foule immense hier après-midi, place de la République à Paris, rassemblement aussi à Marseille et à Lyon.
Ainsi qu'à Lille, des familles, des élèves, mais aussi des professeurs profondément bouleversés. Reportage de Maximilien Carlier.
Pas de cris, pas de slogans. De longs applaudissements, une Marseillaise et une minute de silence. On entend que le bruit de la fontaine, place de la République. On voit quelques drapeaux tricolores, les yeux rougis, un père et sa fille portent une affiche.
Merci à mes profs de m'avoir enseigné la liberté d'expression. C'est ma fille qui l'a écrit, elle est en première année de Sciences Po. Et ça lui est tenu à cœur de délivrer ce message.
On vous sent ému ?
Ça me touche, c'est un message qui me touche.
Les larmes coulent sur le visage de cette étudiante. Ici, un peu moins d'un millier de personnes sont rassemblées.
Ça rassure, ça émeut aussi, ça réconforte sur la société, sur le vivre ensemble, sur la force du vivre ensemble.
Les gens viennent un dimanche de manière spontanée. C'est à la fois triste, hein, c'est vrai, mais en même temps, ça permet de se projeter, puis de se rendre compte que les gens sont affectés, qu'il y a quelque chose se passe. Est très profond, je trouve.
Le besoin de se retrouver et une mobilisation qui rappelle celle qui a suivi les attentats de Charlie Hebdo. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Deux rendez-vous à vous signaler donc ce matin, 6h40. Nous en reparlons avec un professeur de lettres. Jean-Rémy Gérard sera mon invité. Et à 8h15, la première interview du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, face à Sonia Mabrouk. Il est 5h04 sur Europe 1. Dans l'actualité aussi, en ce lundi matin, le Covid et les chiffres qui grimpent encore. 29 800 contaminations recensées hier.
Et cette deuxième vague inquiète particulièrement dans les EHPAD. Le premier syndicat des établissements privés alerte sur la difficulté qu'il rencontre à recruter en particulier des aides-soignants. C'est notamment le cas en Occitanie, où un dispositif est testé pour essayer de répondre à ce manque de personnel. Benjamin Peter.
On sent une fatigue des équipes et donc elles sont peut-être plus souvent en arrêt maladie. D'autre part, dès qu'il y a des positifs ou dès qu'il y a des cas contacts, on les isole pour sécuriser au maximum nos structures et donc on a besoin de remplaçants. Et c'est souvent là que ça coince.
Les candidats sont rares pour ces remplacements. Martine Danès, qui préside le CINERPA dans la région et dirige plusieurs structures, le constate tous les jours. Les formations trop généralistes, puisque les aides-soignants peuvent travailler aussi bien à l'hôpital qu'en EHPAD. Alors pour trouver plus vite des gens mieux formés, elle a mis en place avec Pôle emploi et la Croix-Rouge une nouvelle formation.
On peut être amené à prendre des personnes qui ne sont pas diplômées pour s'occuper des personnes âgées. Et nous, c'est pas ce qu'on souhaite. D'où la création de ce diplôme. On a mis sur pied une formation qui s'appelle l'accompagnant en gérontologie, qui en 3 mois permet à une personne, avec des temps de stage et des temps de cours, d'acquérir les connaissances nécessaires pour exercer un EHPAD en toute sécurité. Peut-être qu'après, cette personne évoluera vers aide-soignante ou un autre métier du soin. Mais en tout cas, très vite, on peut la former et lui donner un bagage.
Une première promo est sortie l'an dernier, donc 90% est actuellement en activité, une autre est en formation. Et c'est à la fin de l'année que l'expérimentation devrait déboucher sur la certification de ce diplôme. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.
À propos de l'épidémie, cette information, Europe 1, l'application française Stop Covid, qui sera bientôt renommée Tous Anti-Covid, n'est pas compatible avec les systèmes des autres pays européens. Autrement dit, si vous voyagez hors de France et que vous croisez une personne qui se révèle ensuite positive au virus, l'application française ne pourra pas vous prévenir du risque d'avoir été contaminé.
Europe 1. La suite du journal de 5 heures dans quelques secondes. Et qui est donc la Lorelai? Laurent Voulzy, qui la célèbre dans une chanson, va vous raconter cette légende. A tout de suite sur Europe 1, 5h06.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 5h07 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Laurent Voulzy, sans son comparse de toujours Alain Souchon, mais Voulzy de retour avec un nouveau titre inédit, Le Relay, comme un cadeau avant la sortie d'un best-of de ses plus grands titres, ce sera en novembre. Alors celui-ci a été inspiré par une légende allemande, il le raconte, Laurent Voulzy, à Angèle Châtelier.
Le Relay, c'est une légende allemande d'une femme qui est sur un rocher. Elle se sent maudite un peu parce qu'elle a des hommes qui la regardent, tombent instantanément amoureux d'elle, mais ils meurent en même temps.
Et je rêve de l'amour parfait, d'un monde idéal, sans remords et sans regrets.
Et moi, je me suis servi du fait que le prénom est beau et qu'elle est sur un... Et à un moment d'ailleurs, donc cette légende, elle va sur le rocher. Elle se regarde dans le Rhin et en fait, elle voit ses yeux et là, elle tombe dans le Rhin et elle meurt. Et je m'adresse à elle en lui demandant « Ne vois-tu rien venir ?» Voilà.
Laurent Voulzy, interrogé par Angèle Châtelier.
Et on réécoutera ce nouveau single, on l'écoutera en entier tout à l'heure, juste avant 5h30. On en reparlera aussi avec mon invité inattendu à 6h15 tout à l'heure. Il a travaillé avec Laurent Voulzy dans les églises, puisque Laurent Voulzy fait ses concerts dans les églises et il va nous raconter un peu la coulisse de tout ça. C'était le journal de François Geffrier, il est 5h08.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports avec à la une des Lillois, tout en haut.
Tout en haut des Hauts-de-France et tout en haut de la Ligue 1 de football. Ils ont largement dominé hier soir le derby contre Lens, victoire 4-0 en clôture de la 7e journée. Succès qui place ces Lillois seuls en tête du classement devant le PSG et Rennes. Soirée parfaite, dit l'entraîneur de Lille Christophe Galtier qui pensait aux fans privés de match au stade pour cause de couvre-feu.
C'était le bon scénario, d'ouvrir le score rapidement et aussi de mettre ce deuxième but assez rapidement en début de deuxième période. Mais on l'avait préparé très sérieusement, évidemment que ce match avait une importance pour mes joueurs, voilà, envoyer une belle image et surtout donner une victoire à nos supporters qui, depuis beaucoup de mois, ne peuvent pas assister au match.
Et les Lensois ont fini la rencontre à 9 joueurs. Après 2 exclusions sur carton rouge, les promus sont tout de même 5e du classement.
A signaler aussi hier le réveil des Lyonnais.
Ah oui, 5 matchs qui ne gagnaient plus. Succès 3-2 à Strasbourg. Lyon 9e ce matin, juste devant Saint-Étienne, 10e. Les Stéphanois surpris à domicile par Nice, 3-1. Même score, 3-1 pour Nantes face à Brest. Angers, Metz et Monaco-Montpellier, 1-partout.
On parle maintenant de l'équipe de France féminine et drôle d'ambiance pour le rassemblement des Bleus aujourd'hui à Clairefontaine.
Oui, préparation à 2 matchs de qualification à l'Euro 2022, sans Corinne Diacre, la sélectionneuse à l'isolement, testée positive au coronavirus, elle gérera à distance. La patronne des Bleus, source de crispation au sein de l'effectif, Simon Rubin.
L'atmosphère n'est pas bonne, l'image que l'on dégage en Europe et dans le monde n'est pas celle que l'équipe de France doit avoir. Ce sont les mots de Wendy Renard qui traduisent un malaise dans la Maison Bleue. La coach Corinne Diacre est la cible de beaucoup de critiques en ce moment, trop autoritaire, trop dure, incapable d'insuffler de l'envie à ses joueuses. Récemment, elle n'a pas convoqué sa capitaine Amandine Henry sans vraiment y mettre les formes, un choix qui passe mal en interne. Quelques semaines auparavant, c'est Sarah Boisdy, l'emblématique gardienne, qui annonçait vouloir prendre du recul sans pour autant cibler son entraîneuse. Mais il apparaît clair aujourd'hui que le collectif de l'équipe de France féminine se fissure. En général, dans le foot, c'est toujours le coach qui en paye le prix. On verra si cette règle se vérifie.
France, Macédoine du Nord vendredi et Autriche, France mardi de la semaine prochaine. Les 2 prochains matchs des Bleus. Qualification donc pour l'Euro 2022. Les Clermontois sont 4e du classement du top 14 de rugby ce matin. Derrière Toulouse, La Rochelle et Pau, Clermont a battu hier le Stade Français 41-27 en clôture de la 5e journée. Un peu plus tôt, les Lyonnais ont passé 62 points à Bayonne, 62-10.
Et puis le vélo, Julien Alaphilippe va être opéré.
Il souffre d'une double fracture à la main droite après sa chute hier sur le Tour des Flandres. Il a percuté une moto de l'organisation, chute impressionnante. La victoire sur ce monument belge du cyclisme mondial est revenue au Néerlandais Mathieu Van Der Poel, 25 ans. C'est le petit-fils de Raymond Poulidor.
Et le chiffre du jour.
15 petites secondes d'écart au classement général entre les 2 premiers cyclistes du Giro, le Tour d'Italie, qui entre aujourd'hui dans sa 3e et dernière semaine. Le Portugais Almeida, toujours premier, devant le Néerlandais Kelderman, qui s'affirme comme un candidat à la victoire finale. Les autres concurrents pointent à plus de 3 minutes. Aujourd'hui, c'est repos sur ce Tour d'Italie.
Ça va faire un peu de suspense. Ah bon, à tout à l'heure, Jérôme Lacroix.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et voici maintenant le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Enghien. Et mon pari gagnant sera le 313 Italiano Vero. Ne le jugez surtout pas sur ces deux premières courses qui se sont soldées par deux disqualifications et qui ne reflètent certainement pas le potentiel de ce trotteur à peine âgé de 2 ans. Très bien né, ce fils de Reddy Cash travaille remarquablement bien le matin et s'il consent à trotter d'un bout à l'autre du parcours, il devrait pouvoir s'imposer et justifier ainsi toute l'estime que son crack entraîneur Philippe Allaire lui témoigne depuis plusieurs mois. Notez bien, pour cet après-midi à Enghien, réunion 1, dans la troisième course, le numéro 13, Italiano Vero.
C'est noté Thierry Léger et on vous retrouve dans 20 minutes pour le Quintet. À tout à l'heure.
Europe 1.
Il est 5h13 sur Europe 1. Bon réveil, nous allons ouvrir les journaux dans quelques secondes. Le pressing du matin, les histoires que nous avons repérées dans la presse. Omblin, une bonne nouvelle, ça fait du bien ce matin. Ça recrute.
Exactement, il y a eu plus de CDI proposés à la rentrée par rapport à l'an dernier. Malgré la crise sanitaire, certains secteurs recrutent partout en France. La santé, le BTP ou encore l'industrie, on va détailler ces chiffres dans un instant.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sébastien Krebs.
Il est 5h14 sur Europe 1. 2h30 de conseil de défense hier soir à l'Elysée après l'assassinat du professeur d'histoire géographie Samuel Paty. La sécurité des établissements scolaires va être renforcée dès la rentrée des vacances de la Toussaint et l'exécutif promet d'autres actions concrètes dans les prochains jours contre les milieux radicalisés. Hier, plusieurs des manifestations pour la mémoire de l'enseignant se sont tenues à Paris, à Lyon, à Strasbourg, à Marseille, encore à Montpellier. Des dizaines de milliers de participants à travers la France. Et puis 29 800 contaminations au coronavirus recensées ces dernières 24 heures après un record de 32 000 samedi dans les services de réanimation. Le nombre de patients continue d'augmenter. Ils sont 1939 atteints du Covid.
Europe 1.
À 5h15, c'est l'heure d'ouvrir les journaux sur Europe 1, comme chaque matin, avec Omblin Roche et Paul Lassen. D'abord un coup d'œil à la une, bien sûr, de la presse. Les unes des journaux quasi intégralement consacrées à l'horreur de l'assassinat de Samuel Paty. Les images des manifestations d'hier, partout. Je suis prof, une pancarte à la une de Sud-Ouest, à la une de Ouest-France plutôt. Après le choc, l'hommage, c'est le titre de La Voix du Nord. L'appel à la résistance aujourd'hui en France. Ensemble contre la haine, Midi Libre, la France debout, la dépêche... Pardon. La dépêche du midi, des citoyens debout, là aussi pour la Marseillaise. L'hommage à Monsieur Paty, écrit Sud-Ouest pour Samuel. Voilà les mots du Progrès. L'indispensable riposte, résume les Échos. Et puis ce très beau titre choisi par Libération. Liberté, j'enseigne ton nom. Omblin.
Oui.
Les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Omblin, d'abord oui. De bonnes nouvelles donc sur le front de l'emploi.
Exactement, on pourrait croire logiquement que la crise sanitaire engendre une crise de l'emploi. Eh bien, ce n'est pas ce que dit Adecco, le leader mondial de l'intérim, qui publie son baromètre compétences et territoires ce matin dans Aujourd'hui en France. Des offres d'emploi qui repartent à la hausse sur tout le pays. Il y a eu par exemple plus de 200 000 postes à pourvoir en Île-de-France entre le 15 août et le 30 septembre, donc il y a quelques jours. Si certaines régions restent encore dans le négatif, c'est vrai, comme la région PACA. En revanche, on recrute plus en Bretagne ou en Corse. Certains secteurs se portent donc plutôt bien et c'est le métier de commercial qui se retrouve en top 10, à la tête du top 10. Plus de 42 000 postes ont été proposés entre la mi-août et fin septembre. Les assistants, les secrétaires, les vendeurs, les comptables ont la cote également. On recherche particulièrement des gardes d'enfants mais aussi des auxiliaires de vie, en gros le service à la personne. Mmh. Les métiers de la santé voient évidemment leur nombre d'offres exploser. Les infirmiers, les aides-soignants, des postes qui peinent à trouver preneur. Autre secteur que la santé qui ne cesse de recruter sont l'industrie et le BTP. Les techniciens de maintenance, les mécaniciens, les maçons, les agents de production. On recherche aussi pas mal les chauffeurs poids lourds, figurez-vous. Avec la crise sanitaire et la crise économique, le ministère du Travail souhaite faciliter le passage d'un secteur touché à un secteur en tension. La clé, donc, aujourd'hui, pour trouver un emploi, c'est la reconversion. C'est de savoir passer d'un métier à l'autre. Un candidat qui saura s'adapter aura plus de chances de décrocher le job. Les métiers qui recrutent dans aujourd'hui en France.
Et de déménager en Bretagne aussi, visiblement, où on recrute un peu plus qu'il y a plus de 10%. Ouais, plus que l'année dernière.
D'offres voilà. En plus. Ouais.
Avec des métiers qui, souvent, ont du mal hein, à trouver preneur, à trouver les profils qu'ils recherchent. C'est donc à lire dans Aujourd'hui en France. Voilà. Moi, je voulais revenir sur les très nombreux témoignages de professeurs après l'attentat de vendredi. On parlait des manifestations. Et au-delà de l'émotion, y a-t-il des sujets dont on ne peut plus parler en classe ? C'est le Figaro qui a recueilli un certain nombre de récits. Cela fait plusieurs années que je ne parle plus du Coran à mes élèves de 6e, même si c'est au programme, témoigne Jeanne, prof de français dans un collège des Yvelines. Elle enseigne dans un quartier où, dit-elle, l'imam est très virulent. Quand j'ai fait mon cours, dit-elle, beaucoup d'élèves ont réagi avec véhémence, me disant que j'avais tort, que le Coran prévalait sur la loi pénale et les textes scientifiques. On est en 6e, hein, je vous le rappelle. Elle a alors décidé de faire l'impasse sur cette partie du programme pour éviter les ennuis. Un de ses collègues, lui, est en école primaire. Il raconte que l'année dernière, l'un de ses élèves a crié en classe « Allahu Akbar » et que lorsque l'enseignant a voulu écrire aux parents pour leur signaler, la directrice de l'école l'en a dissuadé. « On nous demande toujours de ne pas faire de vagues », raconte cet enseignant. Voilà, des renoncements, des accommodements, beaucoup de précautions. Au lycée aussi, un prof d'histoire raconte la difficulté d'aborder les cours portant sur le Moyen-Orient. Je fais attention à chaque phrase, à chaque mot. Toute la classe peut me tomber dessus et les parents avec. Ce genre de sujet, c'est un nid à problème. Alors comme je n'ai pas envie d'en avoir, eh bien je prends des pincettes et je m'abstiens de dire certaines choses. Voilà, ces enseignants qui s'auto-censurent, c'est-à-dire dans le Figaro. Et on en reparlera tout à l'heure, puisque c'est un professeur de lettres qui sera mon invité à 6h40, Jean-Rémy Girard. Paul, on termine avec vous ?
Oui, on se souvient des récentes polémiques autour de « Autant on emporte le vent » jugé raciste dans ses traductions françaises, et plus récemment du roman d'Agatha Christie « Ils étaient 10 ». Eh bien, Slate.fr nous apprend qu'un géant américain a décidé de prendre ses précautions pour éviter de telles polémiques, puisque Disney a en effet décidé de prévenir du racisme dans ses vieux films. Un nouveau message d'avertissement sera présent sur certains dessins animés cultes de la plateforme Disney+. Alors, je cite Disney, « Ce programme comprend des représentations datées et ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient déplacés à l'époque. » Et le sont encore aujourd'hui. Alors, l'objectif, ce n'est pas de supprimer le contenu dérangeant à l'intérieur du film, mais plutôt de reconnaître qu'il a une influence néfaste, dit Disney, qui ne veut pas répéter les mêmes erreurs dans ses nouveaux films. Alors, sur le banc des accusés, plusieurs œuvres. Les Aristochats, film dans lequel des chats siamois sont représentés en stéréotype de personnages asiatiques qui jouent du piano avec des baguettes. Il y a aussi le Livre de la Jungle, avec le fameux Roi Louis, personnage phare du film, pointé du doigt pour être une caricature raciste d'un afro-américain perçu comme paresseux et dansant sur du jazz. Dumbo ou encore La Belle et le Clochard sont aussi visés. Donc stéréotype, exagération, caricature maladroite. Il sera difficile de voir les Disney de la même façon qu'avant pour les générations qui arrivent.
Ouais. Bon, au moins, on ne coupe pas les scènes.
Non,
on ne dénature pas les œuvres comme ça a pu être le cas au Autant d'emporte le vent, on a carrément changé le texte.
Voilà.
On n'en est pas là.
On prévient juste.
On prévient juste avec un message. Bon, voilà. Écoute, pourquoi pas. Il est 5h21.
Merci.
Sur Europe 1, rideau sur le pressing. Europe 1. Et nous partons à présent pour l'Auvergne. Bonjour Bruno Gourdon.
Bonjour Sébastien.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes à nouveau dans la bande des doigts dans l'assiette. On va vous retrouver dans quelques secondes. Vous êtes éleveur dans le Puy-de-Dôme. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Il est 5h23 et c'est l'heure des doigts dans l'assiette. Notre rendez-vous en direct chaque matin avec nos producteurs, nos agriculteurs à travers la France. Et c'est un nouveau dans la bande qui se relaye au quotidien. Nous sommes dans le Puy-de-Dôme ce matin, donc chez vous, Bruno Gourdon. Vous êtes éleveur. Présentez-nous en quelques mots votre exploitation.
Bah écoutez, c'est une petite exploitation dite familiale puisque j'exploite 50 hectares en vache et terne agriculture biologique. Donc je produis du lait.
Vous produisez du lait. Alors votre particularité, c'est que vous êtes rebouteux. C'est ça ? Dites-nous déjà ce que ça veut dire.
Alors rebouteux, vous savez, c'est ce qu'on appelle la médecine manuelle traditionnelle, comme on aurait tendance à appeler aujourd'hui. En fait, ce sont des méthodes ancestrales que nos anciens, avant que les vétérinaires existe. On avait toujours dans chaque commune une personne qui était capable de gratter les vaches avec les mains, de remettre tout ce qui était qui n'était plus en place, le remettre en place. On appellerait aujourd'hui un peu plus l'ostéopathie, ces choses-là.
Vous faites l'ostéo sur les vaches.
Oui, voilà, on fait. Alors, ostéo, c'est un terme médical, donc c'est pas quelque chose qui est applicable à l'agriculteur.
Quelque chose qui en serait proche.
Voilà, mais nous, on serait plus sur des techniques qui seraient vraiment ancestrales, puisqu'on, moi, j'ai rencontré beaucoup de rebouteux qui m'ont expliqué comment il fallait faire, et puis aujourd'hui, je le transmets à des éleveurs aussi.
Qu'est-ce que ça leur apporte à vos bêtes que vous les manipuliez comme ça?
Eh ben déjà, c'est un confort pour elles, puisque ce sont quand même des animaux qui sont assez lourds. Hein. Une vache laitière, ça fait aux alentours de 600-650 kg, des fois plus. Et des fois, il faut peu de choses pour avoir des pathologies qui peuvent se produire derrière, type mammite, boiterie, etc. Et donc, l'avantage, c'est que par ces méthodes-là, puisqu'il n'y a pas que celle-ci, il y a aussi celle de l'homéopathie ou autre, mais par ces méthodes-là, vous évitez l'utilisation des antibiotiques ou des anti-inflammatoires.
Oui, d'accord. Et donc, ça vous permet aussi de rester en bio ?
Ben, ça permet de tenir le cahier des charges bio. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, une des difficultés qui va être à l'avenir, ça va être l'antibiorésistance par rapport à la population. Et donc, moins on utilisera d'antibiotiques dans les élevages, moins on participera à l'antibiorésistance derrière. Il y a un enjeu qui est pas négligeable non plus.
C'est la santé, ça participe aussi du bien-être de vos bêtes, j'imagine.
Ben bien sûr, oui. C'est d'abord le bien-être des animaux, avoir un confort journalier pour ces animaux-là. Éviter aussi d'avoir des pathologies trop lourdes, puisqu'on intervient beaucoup en amont de la pathologie. Donc c'est tous ces intérêts-là, donc ça participe au bien-être animal, mais aussi au bien-être de l'éleveur.
Et on sait combien les consommateurs que nous sommes sont attachés au bien-être animal encore plus qu'avant. Comment on sait qu'on consomme vos produits, si on doit choisir, comment on fait pour savoir si les bêtes ont été élevées de cette manière-là?
Jusqu'à présent, il n'y a pas
de label.
Il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est compliqué. Alors après, peut-être que ça viendra à l'avenir, parce que je pense que les industriels ou les transformateurs aujourd'hui commencent à prendre le problème à bras le corps. Et je pense que d'ici peu, on va voir arriver des, je ne sais pas si ça va être des formes de labels ou autres, mais qui permettront un peu que le consommateur puisse savoir ce qu'il achète.
Merci beaucoup Bruno Gourdon et on vous retrouvera tout au long de la saison. Vous nous raconterez votre exploitation, votre quotidien avec vos vaches laitières. À très bientôt. Allez, dans
parfait.
Les deux dans l'assiette.
À bientôt, Sébastien.
Bonne journée à vous.
Merci,
et on écoute ce nouveau single de Laurent Voulzy dont on parlait tout à l'heure. Lorelai sur Europe 1, bon réveil. Et on va retrouver Laurent Cabrol pour un point sur la météo de ce lundi matin. Il fait pas chaud, Laurent?
Non, vous avez raison. Nous avons du moins 2 au puits, ou bien on est en petite altitude, hein, à 500 mètres, moins 2 degrés, 0 à Roanne et à Vichy, 1 degré à Guéret, Romorantin, 2 à Valence, à Nevers et Avignon. Qu'y a-t-il encore? J'ai même relevé un 2 petits degrés en Seine-et-Marne. Tiens, 3 degrés à Lyon et Clermont-Ferrand. Nous étions dans le Puy-de-Dôme, et bien voilà, 3 degrés. 4 degrés à Besançon et en banlieue parisienne. 5 à Bourges. 6 à Couron, à Caen. 7 à Lille. 7 à Strasbourg. 8 à Bordeaux. 9 à Toulouse et 10 à Brest. Les températures étant données, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Nous avons quelques brouillards vers Beauvais, Pontoise. Des brouillards qui vont disparaître assez rapidement. Et puis un ciel qui sera légèrement voilé sur la France. On ne peut pas dire que ce sera un temps limpide, mais ce sera du beau temps quand même, du beau temps d'hiver. Voilà.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez, très bon réveil. On va retrouver l'info avec Hélène Zellani. Bonjour Hélène.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30, votre journal.
Là pour dire ma colère, pour dire ma tristesse. Je suis révoltée qu'on n'ait pas su protéger aussi cet enseignant parce qu'il a dit des choses. Il a tiré la sonnette d'alarme.
Colère et tristesse, celle de tous les Français, notamment des enseignants, après l'assassinat du professeur de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty. Pas facile d'aborder la laïcité en cours. Conseil de défense hier soir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Des procédures sont prévues contre ceux qui propagent la haine, comme le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, d'ailleurs toujours en garde à vue. Nous irons en Alsace, un temps épargné par la deuxième vague de Covid, mais où les chiffres remontent ces derniers temps. Et puis, qui dit couvre-feu, dit soirée à la maison, les baby-sitters sont au chômage technique.
Ils, et plus souvent elles d'ailleurs, sont un maillon essentiel de la prise en charge des personnes âgées. Comment mieux reconnaître les aides à domicile ? Pour beaucoup oublier des primes Covid, une revalorisation salariale est annoncée. Est-elle suffisante ? Nous en parlons après le journal avec Pascal Chanvert. Il préside l'association des directeurs au service des personnes âgées. Et puis des idées, des belles initiatives à travers nos régions. Votre rendez-vous, La France bouge, avec Jérôme Lacroix. Bienvenue, il est 5h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous n'avons pas peur, vous ne nous diviserez pas. Phrase du Premier ministre Jean Castex, présent dans le rassemblement parisien hier en hommage à Samuel Paty. Un peu partout en France, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour défendre la liberté d'expression après l'assassinat de ce professeur d'histoire géo qui avait montré des caricatures de Mahomet en classe.
À Paris, place de la République, de nombreux enseignants sont venus saluer la mémoire de leurs collègues. Ils ont raconté à Romain Noquet un quotidien parfois difficile face à ces questions autour de la laïcité.
Sur ma pancarte, il y a « Je suis enseignante, libre d'enseigner la liberté ». On en a marre et moi je regrette qu'on en soit arrivé là. On ne l'a pas écouté cet enseignant.
Des professeurs désemparés face à la pression de parents d'élèves. C'était le cas de Monsieur Paty, c'est aussi celui de Valérie, institutrice en Seine-Saint-Denis.
Les comportements agressifs de certains parents par rapport à la religion, on les a. Des garçons qui ne veulent pas tenir la main dans le rang à une fille. Des petites filles qui ne viennent pas à la piscine parce qu'elles ne veulent pas se déshabiller. Ça fait des années qu'on a ça et c'est dramatique.
Dans la foule, une collègue raconte aussi ce cours de français sur un texte de la Bible qui a indigné plusieurs de ses élèves. Des tensions telles que certains enseignants frôlent l'autocensure.
Je me suis dit, mais bon, les caricatures de Charlie Hebdo, pour parler de la liberté d'expression, il y avait plein d'autres choses. Non, j'aurais évité de mettre de l'huile sur le feu.
Pourquoi ?
Non, je fais attention.
Car ses professeurs le disent, en cas d'incident, la direction préfère la discrétion, le huis clos.
On se sent très seul, donc des événements, quand ils sont remontés, l'objectif c'est de ne pas faire de vagues. Et c'est plus de la colère envers l'institution.
Une institution qui, admet l'enseignante, cède souvent en faveur des parents. Nous, professeurs, dit-elle, on ne fait pas le poids.
La difficulté d'enseigner sur ces questions-là, nous en parlerons à 6h40 avec un professeur de lettres, Jean-Rémy Girard. Il préside le SNALC, le deuxième syndicat dans le secondaire.
Et puis hier soir, un conseil de défense présidé par Emmanuel Macron s'est tenu à l'Élysée. La sécurité des établissements scolaires sera renforcée à la rentrée. Des actions concrètes, rapides, seront lancées contre la propagande islamiste sur Internet.
Cette propagande dans l'histoire de Samuel Paty, elle a notamment été menée par un militant qui défendait une vision radicale de l'islam depuis longtemps, Abdelhakim Sefrioui.
Oui, au début du mois, il avait d'ailleurs diffusé une vidéo pour dénoncer le professeur et avait accompagné le père d'une élève du collège de Conflans-Sainte-Honorine pour demander le renvoi de l'enseignant. Son portrait avec Chloé Triomphe.
Fiché S, Abdelhakim Sefrioui n'a pourtant jamais été condamné pour des appels directs à la violence, mais il est connu depuis des années pour son activisme et sa participation à de nombreuses manifestations, que ce soit en soutien au Hamas ou pour protester contre un imam trop républicain à son goût qui soutenait la loi d'interdiction du port du voile en France. Pour Bernard Godard, ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur en charge des questions sur l'islam, l'influence et les répercussions de cet activiste ont pris aujourd'hui une autre dimension.
C'est quelqu'un qui peut estimer être dangereux pour une frange de gens très sensibles, un peu fragiles, de jeunes par exemple qui sont sensibles à la victimisation, au complotisme, etc. Mais il y a 20-30 ans, bon, on aurait dit « oui, bon, bah, ça n'agitait comme peuvent l'être un certain nombre d'autres gens ». Mais aujourd'hui, ça revêt un caractère dangereux.
Et c'est l'une des questions centrales de l'enquête aujourd'hui. Quel a pu être le rôle, même indirect, de cet homme dans le passage à l'acte du jeune Tchétchène ?
L'une des questions centrales de cette enquête et une autre question, pourquoi n'a-t-il jamais été inquiété ? Question qui sera posée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est sur Europe 1 ce matin, invité de Sonia Mabrouka à 8h tout à l'heure. Il est 5h35, près de 30 000 cas positifs et toujours plus de malades en réanimation, 1939 précisément. Les chiffres officiels du Covid sont de plus en plus inquiétants et ils sont en hausse même dans des régions qui semblaient plutôt épargnées.
Oui, comme l'Alsace, épicentre de la première vague où les courbes de contamination étaient faibles comparées à d'autres. Arthur Elmbaché, les indicateurs commencent finalement à monter aussi chez vous. Pourtant, le début de la deuxième vague a été très calme.
C'est vrai que cette dernière semaine, on a eu ici des taux d'incidence ou des taux d'occupation en réanimation vraiment minuscules comparés à Marseille ou à Paris. Les scientifiques ont bien du mal à expliquer ce mystère alsacien. Voilà l'hypothèse qui tient le plus la route, dit le patron des urgences de Colmar, Yannick Godvalès.
Je pense que l'explication est bien sur ce qui s'est passé en mars-avril. On a été en contact de personnes très gravement atteintes, voire qui malheureusement sont décédées. Et de ce fait-là, ça a marqué les esprits. On est beaucoup plus attentif aux gestes barrières, on est plus attentif au lavage de mains. Et donc, ça explique la situation actuelle de l'Alsace.
Sauf que depuis quelques jours, les chiffres alsaciens sont en hausse.
Là, on est inquiet, vraiment.
Frédéric Trinichevski dirige SOS Médecins à Mulhouse.
Et bien là, on a l'impression que ça y est, ça vient. Le nombre de cas augmente. Mais on se dit, à la lumière de ce qui s'est passé dans la première vague, les zones qui ont été touchées plus tardivement ont été touchées de manière moins intense. La vague vient plus tard, on se dit que peut-être nous serons un peu épargnés et elle sera moins intense chez nous.
Il faut, ajoute le médecin, que les Alsaciens aient en mémoire non pas l'automne tranquille, mais le printemps meurtrier.
Arthur Elmbaché à Strasbourg pour Europe 1. L'Europe dépasse désormais le cap des 250 000 morts. L'Italie et la Suisse annoncent un nouveau durcissement des restrictions.
Troisième soirée de couvre-feu à Paris et dans 8 autres agglomérations. Plus de restos ni d'anniversaires chez les uns ou chez les autres.
Oui, dure situation pour les jeunes déjà durement frappés par la baisse des offres de jobs étudiants et qui ne trouvent plus de babysitting. C'est le cas de Marine.
Quand j'ai entendu parler du couvre-feu, ça a direct tilté. Je me suis directement dit, ça y est, j'aurai plus de travail pour le week-end. J'essaie de comprendre un peu parce que je me dis que c'est pour la santé de tout le monde. Donc après, c'est sûr que nous, les étudiants, on est très, très, très délaissés avec cette situation. Enfin, moi, personnellement, j'ai reçu aucune aide de la part de l'État pour m'aider à payer mes factures ou mes projets que j'avais déjà engagés. Je comptais sur mes baby-sting pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir m'acheter une voiture. J'avais un stage à réaliser pour ma troisième année pour pouvoir intégrer un master et sans voiture, ça va pas être pratique. Ça peut représenter jusqu'à 300 euros, voire un peu plus que ça même. 300 euros par mois, c'est pas négligeable. J'ai réussi à me trouver un petit contrat de 3 heures pour essayer de limiter les dégâts. C'est sûr que c'est pas des babysitting le samedi matin qui vont remplacer mon salaire, quoi.
Un témoignage de cette étudiante au micro européen de Laura Taouchanoff. Et puis le foot, Lille a largement remporté le derby face à Lens hier soir 4-0 et prend du même coup la tête de la Ligue 1.
Et on y reviendra dans le journal des sports avec Jérôme Lacroix. Ce sera juste après le journal de 6h. Pour l'heure, il est 5h38. C'était le journal d'Hélène Zélani. Et place aux courses, les pronostics du Quintet avec vous Thierry Léger.
C'est sur l'hippodrome d'Anguin que se disputera ce Quintet. 16 partants répartis sur deux poteaux différents de départ, 2875 et 2900 mètres. Les numéros 9, Sectar, 13, Clovis Montaval et 1, Diamant du Sam. Classés dans cet ordre, aux 2e, 3e et 4e places d'un Quintet le 30 septembre sur l'hippodrome du Mans, une piste similaire à celle d'Anguin, mérite ici un très large crédit. On le reposera, le numéro 5, Domingo de Loup, titulaire de 8 victoires lors de ses 12 dernières tentatives et qui, sans incident, devrait pouvoir une nouvelle fois jouer un tout premier rôle. Ensuite, je vous recommande les numéros 3, Erasme Williams, à ne surtout pas condamner sur ses deux dernières disqualifications, et 6, Emiliano Zapata, préparé depuis plusieurs semaines pour cet objectif. Enfin, les numéros 8, Duc d'Or, et 14, Écho de Champlecy, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 9, 13, As, 5, 3, 6, 8 et 14.
Merci Thierry Léger. Tous vos pronostics à retrouver bien sûr sur Europe1.fr. Il est 5h39. Ils sont en première ligne face au Covid. Comment mieux reconnaître les aides à domicile, maillon essentiel de la prise en charge des personnes âgées? On en parle avec Pascal Chanvert, le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, dans quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Le premier invité du 5-7 ce matin, il préside l'association des directeurs au service des personnes âgées. Bonjour Pascal Chanvert.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Ils et elles sont en première ligne face au Covid. Les aides à domicile vont finalement bénéficier d'une revalorisation salariale. C'est ce qu'a annoncé la ministre Brigitte Bourguignon vendredi. Ce sera voté dans le cadre du budget de la Sécu. C'est un soulagement pour ces professions qui sont essentielles, Pascal Chanvert.
Non, on ne peut pas parler de soulagement. On va dire que c'est un premier pas. Brigitte Bourguignon a entendu le désespoir, le mécontentement et la colère des aides à domicile. C'est un premier pas, donc il doit être salué comme tel, mais il n'est clairement pas suffisant et il en faudra d'autres et très rapidement. Dire que les aides à domicile qui, au printemps dernier,
sont allées accompagner chez elles des personnes âgées, parfois sans masque, le plus souvent sans aucune information suffisante sur la Covid, qui n'ont pas eu la même prime que les salariés des établissements, vont avoir une augmentation de salaire à partir du mois d'avril prochain, c'est très clairement totalement insuffisant.
L'enveloppe, c'est 200 millions d'euros de l'État, c'est l'enveloppe qui va être débloquée, le reste sera financé par les départements. Est-ce qu'on sait au bout du compte ce que ça va représenter en termes d'augmentation pour chacun et chacune de ces aides à domicile ?
Ça va représenter trop peu, parce que, une fois de plus, c'est une augmentation en avril. La crise du coronavirus, elle a commencé au printemps dernier. C'est-à-dire qu'un an après, on va augmenter un tout petit peu le salaire des aides à domicile. C'est totalement inacceptable. Ce qu'il faut mettre en place, c'est à domicile, pour ces femmes à 95% qui se sont engagées et qui s'engagent au quotidien auprès de nos aînés, il faut faire pour elles exactement la même chose que ce qui a été fait en établissement. Or, en établissement, dans les établissements pour personnes âgées, dans les établissements hospitaliers. Au début de l'été, les salariés des établissements, ils ont eu une prime de 1 000 à 1 500 euros. Cette prime, aujourd'hui, les personnels du domicile ne l'ont pas eue. Ou quand ils l'ont eue d'une façon extrêmement réduite. Premier élément. Deuxième élément, il y a eu un Ségur de la santé qui concerne les établissements hospitaliers, les établissements pour personnes âgées. Les personnels à domicile sont exclus du Ségur de la santé. Donc, ce qu'il faut, ce que nous demandons, c'est que les professionnels de l'aide à domicile aient exactement les mêmes reconnaissances à travers la prime, à travers les augmentations de salaire, les mêmes reconnaissances que les personnels des établissements.
Sachant que ces métiers sont absolument essentiels pour maintenir à domicile ces personnes âgées.
Ces métiers sont absolument essentiels, comme le sont ceux des établissements, car les personnes âgées, elles doivent pouvoir choisir si elles veulent continuer à vivre à leur domicile ou si elles veulent vivre en établissement, et elles ont besoin de professionnels, ces professionnels qui ont été présents pendant toute cette crise du coronavirus. Et donc, il faut les remercier les uns et les autres, les unes et les autres, de la même façon à domicile comme en établissement. Et c'est d'autant plus essentiel que les personnels du domicile sont les plus mal payés de l'ensemble de la galaxie des professionnels de santé. Donc non seulement il faut qu'elles aient les mêmes récompenses, la même reconnaissance que les professionnels des établissements, mais en plus il faut à leur égard rattraper le retard accumulé depuis une trentaine d'années.
Combien gagnent environ ces aides à domicile aujourd'hui ?
Le problème, c'est que beaucoup des aides à domicile gagnent le SMIC et rien d'autre. Il faut même, dans la principale convention collective, qu'elles attendent 13 ans pour gagner un peu plus que le SMIC. Et ça, c'est totalement inacceptable. Notre pays a cumulé un gros retard en matière d'aide aux personnes âgées, en établissement comme à domicile, et notre pays a une grosse dette sur la rémunération des salariés de l'aide à domicile.
Ce qui pose des problèmes ensuite d'attractivité de ce métier, est-ce que, comme par exemple les infirmiers et les infirmières, on a du mal à recruter aussi des aides à domicile ?
Bien évidemment, mais c'est encore pire, puisqu'il s'agit de salariés qui vont rester, je vous le disais, 13 ans à gagner que le SMIC. Et encore, beaucoup d'entre elles sont obligées de travailler à temps partiel, on ne peut pas leur offrir un temps plein, et donc elles gagnent moins que le SMIC, parce que travaillant 75 ou 80%, eh bien elles ne gagnent que 75 ou 80% du SMIC. C'est un secteur qui est un des premiers secteurs employeurs de travailleurs pauvres. C'est-à-dire que tout le système de l'aide aux personnes âgées dans notre pays autour du domicile, il est basé sur le fait que les professionnels sont sous-payés et sont des travailleurs pauvres. C'est inacceptable.
Un mot peut-être des EHPAD, des établissements pour personnes âgées. Quelle est la situation aujourd'hui avec ces nouvelles mesures qui ont été installées, notamment pour encadrer les visites ? Est-ce que ces mesures sont suffisantes pour empêcher l'entrée du virus ? On voit qu'il y a un certain nombre de clusters qui continuent de se déclarer.
Personne ne fera jamais des établissements pour personnes âgées des forteresses dans lesquelles le virus n'entrerait pas. Le risque, il existe toujours, particulièrement dans les régions où le virus circule très activement. Donc croire qu'on pourrait avoir des établissements qui seraient comme des bulles de savon au-dessus de la société est totalement impossible. Et puis les personnes qui vivent dans ces établissements, elles ont le droit d'avoir des contacts avec le reste du monde, de recevoir des visites et de sortir. Alors bien entendu, les mesures ont été rendues beaucoup plus contraignantes dans un certain nombre de régions françaises et c'est utile. Le gouvernement, de ce point de vue-là, a écouté l'ADEPA et a écouté le Comité consultatif national tribunal d'éthique en trouvant les bons équilibres entre sécurité et liberté. Et puis par ailleurs, les ministres Olivier Véran, Brigitte Bourguignon ont indiqué que les établissements pouvaient recruter des professionnels supplémentaires pour soutenir les professionnels existants. C'est une très bonne chose. C'est la raison pour laquelle nous demandons la même chose pour les services à domicile.
Merci beaucoup. Merci Pascal Chanvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Bonne journée.
Europe 1.
Il est 5h46 sur Europe 1 et c'est l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France. Comme chaque matin avec vous, Jérôme Lacroix. Dans quelle région allons-nous ?
Eh bien, aux quatre coins du pays, figurez-vous.
Ah, on va partout.
Pour une réponse à un grand appel national, le principe, donner une heure de votre temps, si vous le pouvez, pour des actions bénévoles de solidarité. Chacun d'entre nous peut y participer et c'est presque magique. Ce ne sera pas du temps perdu, au propre comme au figuré, je vous raconte.
Ah bah, vous allez nous expliquer ça dans quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 5h48, la peur va changer de camp, la promesse d'Emmanuel Macron lors du Conseil de défense hier soir. Un plan d'action est promis contre tous ceux qui propagent des appels à la haine. Et dès aujourd'hui, des procédures viseront les auteurs de 80 messages de soutien à l'agresseur de Samuel Paty. Hier, des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées dans toute la France pour rendre hommage au professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine. 11 personnes sont toujours en garde à vue. Et puis le nombre de malades du Covid en réanimation, toujours en hausse, près de 30 000 cas supplémentaires enregistré ces dernières 24 heures.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
La France bouge à présent avec vous, Jérôme Lacroix. Les Français ont des idées à travers la France, on vous le démontre tous les jours. Et ce matin, une initiative montre en main.
Top chrono, une heure. Quelle grande chose avez-vous le temps de faire en une heure? Par exemple, lors des 60 minutes en plus dont chacun d'entre nous dispose chaque année, une certaine nuit d'octobre, lorsque d'un coup, à 3 heures, il est 2 heures. Ah oui, c'est le changement d'heure et c'est cette semaine, dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Et depuis 3 ans, le mouvement Habitat et Humanisme, qu'on connaît bien, qui agit pour le lien social, l'insertion, le logement, propose que chacun d'entre nous utilise cette heure en plus pour des actions solidaires.
Alors, quel est le principe ?
Ça s'appelle l'heure solidaire. Et via le site internet heure-solidaire.org, l'association s'occupe de tout, s'occupe de vous trouver une action bénévole d'une heure à faire près de chez vous. Des exemples, si vous êtes vers Belfort, on a besoin d'aide pour l'emménagement d'une famille qui vient d'obtenir un logement. Si vous êtes à Carcassonne, quelqu'un a besoin de conseils pour utiliser Internet et un ordinateur. Si vous êtes vers Nantes, on recherche des bricoleurs bénévoles. Sinon, toujours via le site internet heure-solidaire.org, vous pouvez choisir de convertir votre heure supplémentaire en don d'argent en moyenne pour un salaire de 1500 euros brut. Le don d'une heure, c'est 10 euros.
Alors l'opération, c'est malin, hein, ce concept. L'opération fonctionne bien, d'autant qu'elle reçoit le soutien de parrains prestigieux.
Notre amie Anne Roumanoff anime à Paris des ateliers de recherche d'emploi à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Le chef Grégory Cuiron propose mercredi une heure de cours de cuisine pour des mères isolées. Ou encore à La Roche-sur-Yon, le navigateur Roland Jourdain, double vainqueur de la route du Rhum, propose de le rencontrer pour parler de son métier et de cet engagement citoyen. Info sur www.heure-solidaire.org.
C'est le week-end prochain, on change d'heure. Oui. En général, on dit qu'on a une heure de sommeil en plus.
Oui,
En fait, ça peut être une heure pour les autres. Voilà. C'est ce que montre cette idée. C'est une riche idée.
C'est la proposition.
Bravo. heure-solidaire.org si vous cherchez des idées pour que faire de cette heure supplémentaire dimanche prochain ou samedi prochain, comme vous voulez. Paul Lassen, on regarde les réseaux sociaux avec vous et on revient sur ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine. Énormément de réactions de professeurs sur les réseaux sociaux.
Oui, alors déjà, toutes les communautés ont pris la parole, il faut le souligner, les politiques, les religieux, les gens de la société civile plus largement. Et donc, beaucoup de professeurs eux aussi se sont exprimés avec des hommages, celui d'Irène par exemple. Il sera avec nous dans les mois à venir, dans nos classes, dans nos esprits, en nous, face aux élèves, quand on parlera de liberté. Son souvenir ne nous quittera pas, nous ferons corps avec lui. Autre message, celui d'Olivier. C'est la victime d'un attentat barbare qui nie la culture, le savoir, la liberté d'expression et les valeurs de la République. Solidarité et soutien à tous nos collègues qui enseignent l'histoire et la géographie. Et justement, beaucoup de professeurs se posent maintenant la question de la suite. Dans quelle mesure est-ce que je pourrais encore faire des cours sur la liberté d'expression ? Allons-nous nous censurer ? Se demande ce professeur sur Twitter. J'aborde tous les sujets avec mes élèves, même ceux dits sensibles, mais jamais je n'ai cru que l'on puisse en arriver là. Est-ce qu'on va pouvoir continuer ? Se demande elle, Cathy. Beaucoup de craintes, oui. Mais c'est le sentiment de résistance qui semble le plus prédominer chez ces professeurs. Nous continuerons à enseigner liberté, égalité, fraternité, laïcité, démocratie. et tant d'autres idées qui font l'utilité et la beauté de notre métier, écrit ce professeur. Enfin, Théo, lui, se souvient de ses débuts et pourquoi il a voulu devenir professeur. Les attentats de 2015 avaient été un accélérateur de mon désir d'intégrer le corps enseignant. L'enseignement n'est pas un simple métier, c'est d'abord un engagement. Et moi, je reste plus engagé que jamais.
Ouais, ils sont engagés, les profs, mais c'est pas facile, évidemment, d'aborder. Alors, c'est pas dans tous les établissements, évidemment, c'est dans un certain nombre, mais ça peut être très difficile d'aborder ces sujets-là.
C'est thématique, oui, absolument.
Et on en parlera à 6h40 avec mon invité, qui est Jean-Rémy Girard. Il enseigne les lettres. Il est aussi le président du SNALC, le deuxième syndicat dans les collèges et dans les lycées, tout à l'heure à 6h40. Merci, Paul Lassen.
Merci.
À demain. 5h52, on la raconte, c'est tous les jours à 14h sur Europe 1, mais vous retrouvez dès maintenant l'histoire du jour en podcast, celle d'Edward Gein, le tueur légendaire du Wisconsin. On est aux États-Unis, c'est l'un des tueurs en série les plus terribles de l'histoire de l'Amérique. Dans les années 50, il portait une combinaison fabriquée avec la peau de ses victimes. La suite du récit dans On la raconte à télécharger sur Europe 1.fr. Le 5-7 continue en musique, il s'appelle donc Omblin les Inspecteurs Clouseau.
Ouais, ils sont gascons, mais ils chantent l'Amérique comme jamais.
A tout de suite sur Europe 1 pour leur histoire.
Europe 1.
5h54, nous ouvrons la partition d'Omblin Roche avec donc ce duo assez inclassable. Des inspecteurs Clouseau, des rockeurs furieux, mais aussi des éleveurs d'oies.
C'est ce qui est inscrit, Sébastien, sur l'une des pages du livret qui accompagne l'album With the People of the Soil, Mathieu Jourdain et Laurent Lacroute, des gens de la terre, des rock farmers et des fermiers rockers qui partagent leur temps entre leurs fermes des Landes et les scènes du monde entier.
Rendez-vous donc tout près de Mont-de-Marsan, la ferme Lucas.
À moins que ce soit Nashville, terre de rock et de blues, Mathieu et Laurent sont deux mousquetaires dans des bottes de cow-boy. Ils ont toujours cultivé un lien étroit avec l'Amérique. Avant des inspecteurs Clouseau, ils s'occupaient des tournées européennes des artistes de Dapton Records, ce label new-yorkais connu pour travailler avec du matériel vintage.
Inspecteurs Clouseau créé ensuite en 2008.
Une batterie, une guitare, des voix et un rock survolté métallique. Pas de guitare basse. Leur label s'appelle d'ailleurs Fuck the Bass Player Records, les bassistes apprécieront.
Des artistes autodidactes, autoproduits, qui prônent l'insoumission. Ils confectionnent leur musique finalement en mode circuit court.
Oui, des confits, des rillettes et du rock élaborés dans le même local. Ils disent il y a un côté militant dans notre indépendance en tant que groupe comme en tant que fermier. Ils ont 6 albums studio à leur actif et un millier de concerts en 12 ans d'existence dans 65 pays.
C'est fou, hein, et avec un millier d'histoires qui vont avec.
Oui, comme ce soir-là dans le Nebraska aux États-Unis. Ils racontent il faisait moins 30 dehors et c'était le feu dedans. Les dames bien habillées nous demandaient de monter les guitares.
Pour produire leur dernier disque, ils ont fait appel au très respecté Vance Powell.
Ouais, sur le tableau de chasse de ce Vance Powell, on peut lire les noms de Jack White et de Beck. Ils travaillent à l'ancienne, la méthode Stax, label emblématique de la soul du sud des États-Unis. En début d'année, dans des studios de Nashville, ils ont réinterprété 10 de leurs morceaux en version acoustique. 4 jours d'enregistrement dans des conditions live. Little girl just hears a sound. Today is a day of the whistling train. Today is a day of roaring rain. Last day hanging around. Last day. Touching the ground. Today, the day. Today, the whistling sound.
C'est vrai qu'on est dans les grands espaces américains, ouais, on est aux États-Unis, on est sur la route.
Exactement.
Avec les inspecteurs Clouseau, oui, qui sont donc des fermiers français, on le redit. Little Girl and the Whistling Train pour cette chanson, extrait du disque acoustique Brothers in Ideals.
Oui, les inspecteurs Clouseau sont de retour depuis vendredi avec un autre live, le live The Organic Farmer Season, des captations à Bordeaux, Biarritz et Mont-de-Marsan. Et ils font la une du magazine Rolling Stone Hebdo en France.
On va écouter ça cet après-midi. Mmh. Voilà les conseils d'Omblin Roche ce matin dans la partition. À demain, Omblin.
Merci, à demain.
5h59, c'est l'heure de retrouver Laurent Cabrol pour la météo de ce lundi.
Eh bien, en météo, en race campagne justement, puisqu'on était à la campagne, c'était bien joli. Nous aurons des températures ce matin qui sont particulièrement basses. Moins 2 au Puy, mais nous sommes à 600 mètres d'altitude, mais quand même 0 à Vichy, à Roanne, 1 à Guéret, à Romorantin, 2 degrés seulement à Valence, à Nevers et Avignon, 3 à Lyon et Clermont-Ferrand, 4 degrés en banlieue parisienne, certains secteurs de Seine-et-Marne, 5 à Alençon, 6 à Caen, 7 à Lille et Strasbourg, 8 à Bordeaux, 9 à Toulouse, 10 à Brest. Donc on se couvre, bien sûr, et la journée s'annonce, il faut bien le dire, plutôt agréable, avec des températures qui vont s'échelonner entre 17 et 21 degrés. Je dis plutôt agréable parce que le ciel sera sec et il n'y aura bien sûr pas un temps limpide avec un ciel bleu permanent. Non, ce sera voilé, mais ce sera un beau temps d'hiver. Alors quand je dis il faut en profiter, vous savez que dans ces cas-là, eh bien systématiquement la suite n'est pas aussi belle et ce sera le cas dès demain. Le temps va vraiment se gâter. Alors profitez-en aujourd'hui, ce sera presque clair partout.
Allez, on en profite aujourd'hui de cette belle journée d'hiver. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci de votre fidélité au 5-7. Bon réveil à vous en ce lundi matin. On retrouve Sophie Echen pour l'info. Bonjour Sophie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est précisément 6h sur Europe 1.
On ne va pas baisser les bras, on ne va pas baisser notre froc en ayant peur. Au contraire, il faut qu'on monte au créneau et qu'on dise aux élèves, il ne faut pas tolérer ça, il ne faut pas accepter ça.
L'émotion et la colère des professeurs venus rendre hommage à leur collègue Samuel Paty, décapité vendredi pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Nous serons dans le quartier de Conflans-Sainte-Honorine où vivait cet enseignant. Les habitants sont toujours sous le choc. Et puis après l'horreur, les questions. Y a-t-il eu des manquements de la part de l'éducation nationale et Samuel Paty aurait-il dû avoir une protection particulière? Dans ce journal aussi, information Europe 1, la future application française Tous Anti-Covid ne fonctionnera pas dans les autres pays européens. Et puis Voulzy, sans Souchon, l'auteur-compositeur dévoile aujourd'hui seul un titre inédit.
Et Laurent Voulzy qui poursuit sa tournée à travers les églises de France. Eh bien, c'est un homme d'église qui vient nous en parler, qui connaît très bien le chanteur, pour avoir travaillé avec lui sur ses concerts. Il a fait chanter les chœurs. Il sera mon invité inattendu dans un quart d'heure. Et puis on retrouvera Fanny Agostini, notre planète. Bon réveil, bienvenue sur Europe 1, il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une place de la République noire de monde, de quoi rappeler le rassemblement après les attentats de Charlie Hebdo il y a 5 ans. Des milliers de personnes se sont réunies hier à Paris et dans plusieurs villes françaises pour saluer la mémoire de Samuel Paty, ce professeur d'histoire géo décapité vendredi soir à Conflans-Sainte-Honorine.
Dans le cortège parisien, beaucoup d'enseignants venus rendre hommage à leurs collègues assassinés pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Un drame qui révolte Valérie, institutrice dans une école primaire de Seine-Saint-Denis.
Je suis juste là pour dire ma colère, pour dire ma tristesse. Je suis révoltée qu'on n'ait pas su protéger aussi cet enseignant parce qu'il a dit des choses. Il a tiré la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa principale, quand il est venu dire ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? D'emblée, ces parents-là, ils auraient dû être foutus à la porte. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a fait pour les arrêter ? Qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter ces messages de haine ? C'est pas possible,
C'est pas possible. Il est parti le matin, il a dit au revoir à son gamin. Et le gamin, le soir, il n'avait plus de papa. Enfin, c'est juste, c'est une horreur. Il y va de plein de choses. Il y va à la fois de notre nation, mais il y va aussi du respect de cet homme qui a perdu sa vie, quoi. On va pas baisser les bras, on va pas baisser notre froc en ayant peur. Au contraire, il faut qu'on monte au créneau et qu'on dise aux élèves, il faut pas tolérer ça, il faut pas accepter ça. Dites-nous dès qu'il y a des messages comme ça qui circulent dans la cour, en espérant que derrière l'éducation nationale et le gouvernement réagissent. Parce que nous, quand on tire la sonnette d'alarme et qu'il se passe rien, bah voilà, on est dépité.
La colère de cette institutrice au micro Europe 1 de Romain Oquet.
Et on en reparle dans 40 minutes, 6h40, avec mon invité Jean-Rémy Girard. Il est le président du SNALC, le deuxième syndicat dans les collèges et dans les lycées.
Un hommage national sera rendu à Samuel Paty mercredi dans le quartier tranquille où il vivait. Les habitants sont toujours abasourdis et ne comprennent pas comment une telle chose a pu se produire. Nicolas Feldman.
Une école primaire, un théâtre de quartier, de petits immeubles bordés de pelouses. C'est au deuxième étage de l'un d'eux qu'habitait Samuel Paty. Yacine le servait dans sa boulangerie.
Samuel, il est là depuis un an et demi, deux ans, je dirais, ouais. Il venait chercher son pain tous les jours, vers l'après-midi, quand il finit ses cours. Et deux fois tout seul, deux fois avec son petit. Il venait, il discutait, il rigolait, bonjour. C'était très, très, très gentil.
Samuel Paty, c'est ce voisin qu'on croisait avec son fils de 5 ans à vélo, un fan de tennis aussi. Au bout du chemin qu'il prenait chaque jour à pied, son collège, les fleurs, les bougies s'entassent aujourd'hui sur le parvis. À l'étage, la salle où M. Paty donnait ses cours, le fils de Nadine était son élève.
Il avait beaucoup d'humour, il aimait bien essayer de faire rire ses élèves. Dans le cadre des cours, M. Paty, il aimait vraiment enseigner. Je suis anéantie par cet acte.
Le département souhaite renommer l'établissement Collège Samuel Paty. Pour Nadine, ce serait là le plus beau des hommages.
Un reportage à Conflans-Sainte-Honorine, signé Nicolas Feldman.
Hier soir, Emmanuel Macron a réuni son gouvernement en conseil de défense pendant 2h30. La peur va changer de camp, a martelé le chef de l'État qui a promis des réponses concrètes après ce drame.
Des réponses notamment à la communauté éducative, particulièrement secouée et inquiète. La sécurité des établissements sera renforcée à la rentrée des vacances de la Toussaint. Mais la polémique monte déjà sur l'éventuel laxisme de l'école face aux revendications des parents d'élèves.
L'éducation nationale aurait-elle dû en faire plus pour protéger Samuel Paty ? Virginie Riva, le ministre de l'Éducation, est formel. Tout a été fait comme il le fallait ?
Oui, pour Jean-Michel Blanquer, l'éducation nationale a agi de manière appropriée. Dès les premières réactions de parents d'élèves présents lors du cours, la principale échange avec le professeur, le soutien. Puis, lorsqu'elle voit que la situation ne s'améliore pas, appelle les équipes Valeurs de la République. Est-ce que celle-ci demande à Samuel Paty de s'excuser ? La réponse est non, dit l'éducation nationale. On lui redit qu'il pouvait parfaitement parler des caricatures. Il lui est simplement conseillé de revenir la séance d'après sur sa démarche. La principale reçoit le père de famille qui a par la suite posté les vidéos. Il vient accompagné de M. Seffrioui qui se targue, selon le rectorat de Versailles, d'être représentant des imams de France, ce qu'il n'est pas. Le père de famille demande alors un entretien avec l'inspection académique. Jamais il n'y est question de sanctionner M. Paty, dit le ministère. Lorsque le père de famille poste les vidéos, l'inspection recommande à l'enseignant de porter plainte, ce qu'il fait, accompagné de la principale, une plainte pour diffamation. Le père, lui, a déjà porté plainte pour diffusion d'images pornographiques. Est-ce que Samuel Paty aurait dû être mis sous protection policière ? Le ministre dit non, car il n'y avait pas de menace de mort. Il a néanmoins demandé une enquête de l'inspection générale.
Virginie Riva.
Il est 6h06 sur Europe 1. L'autre actualité du jour, c'est évidemment l'épidémie de coronavirus. Et cette information, Europe 1, l'application française Stop Covid n'est pas compatible avec le système européen.
Ces dernières semaines, la Commission européenne a travaillé pour que les Européens puissent garder leur application nationale quand ils passent une frontière. Ça va marcher pour tout le monde, sauf pour les Français. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. En fait, la France a refusé de travailler avec Google et Apple sur le développement de notre application.
Et oui, à partir d'aujourd'hui, Allemands, Italiens et Irlandais seront les premiers à tester le système. Imaginons qu'un Allemand parte quelques jours en Italie, il va pouvoir utiliser son appli nationale Corona Warn App. Elle va fonctionner dans la péninsule, l'alerter sur place s'il est en contact avec le virus et même après son retour chez lui, elle le préviendra si une personne qu'il a croisée en Italie est positive. Tout cela grâce au système passerelle mis en place au niveau européen. Il va monter en puissance d'ici fin novembre et fonctionner avec 18 des 19 applications de traçage qui existent dans l'Union. La seule qui n'est pas compatible, c'est la française Stop Covid, bientôt rebaptisée Tous Anti-Covid. parce que la France est le seul pays européen qui a refusé d'utiliser une technologie conçue par Apple et Google et qui a préféré la sienne, un peu comme au temps des magnétoscopes Secam quand quasi toute l'Europe utilisait PAL, ou un peu comme avec votre Minitel, souris une source européenne.
Isabelle Horry, à Bruxelles pour Europe 1, et près de 30 000 nouveaux cas enregistrés hier en France et plus de 1 900 patients en réanimation.
Europe 1. Lorelai, Lorelai, la dernière pépite de Laurent Voulzy à 71 ans, le chanteur dévoile un nouveau titre. On va en entendre un morceau dans quelques secondes. À tout de suite sur Europe.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h09 sur Europe 1, la suite du journal, Sophie Echen.
Et on va parler musique avec le retour de Laurent Voulzy, un retour sans sa moitié, Alain Souchon. Mais Laurent Voulzy dévoile aujourd'hui un titre inédit, avant la sortie d'un best-of en novembre. Et pour cette nouvelle chanson, l'artiste a été inspiré par une légende allemande.
Lorelai, c'est une légende allemande d'une femme qui est sur un rocher. Elle se sent maudite un peu parce que elle a des hommes qui la regardent tombent instantanément amoureux d'elle, mais ils meurent en même temps.
Et je rêve de l'amour parfait, d'un monde idéal, sans remords et sans regrets.
Et moi, je me suis servi du fait que le prénom est beau et qu'elle est sur un. Et à un moment d'ailleurs, donc cette légende, elle va sur le rocher, elle se regarde dans le Rhin et en fait, elle voit ses yeux et là, elle tombe dans le Rhin et elle meurt. Et je m'adresse à elle en lui demandant « Ne vois-tu rien venir ?» Voilà.
Lorelai, Lorelai, c'est donc le nouveau single de Laurent Voulzy. On va en reparler avec mon invité inattendu dans quelques minutes. Il connaît très bien Laurent Voulzy pour avoir travaillé avec lui sur ses concerts dans les églises.
Et puis cette somme, 5,7 millions d'euros, c'est la somme récoltée ce week-end par le The Event, le marathon de jeux vidéo caritatif. Un nouveau record pour sa 5e édition, les fonds seront reversés à Amnesty International.
Ouais, bravo à eux, on en parlait vendredi, 5,7 millions donc pour Amnesty International.
50 heures de jeu en direct. Hein.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1, il est 6h11.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Jérôme Lacroix, les rois des Hauts-de-France à la une, les Lillois.
Ils ont gagné le derby du foot du Nord 4-0 face aux voisins lensois et en prime ces Lillois. Eh bien, ils sont premiers du classement de la Ligue 1 ce matin après cette journée, la fête dans le vestiaire, on vient de l'entendre, mais pas avec le public dans le stade. Et oui, c'était un match à huis clos, couvre-feu oblige, ambiance morne pleine, inhabituelle pour ce rendez-vous entre fans passionnés. L'entraîneur lillois Christophe Galtier.
Voilà, on rend de la fierté à travers évidemment une victoire et une belle performance. On savait que la victoire allait nous placer à la première place dans ce début de championnat. On est sur une bonne dynamique. C'était une belle soirée.
Les Lensois, de leur côté, ils ont fini la rencontre à 9 joueurs après 2 exclusions sur carton rouge. Ils sont promus, il faut le rappeler, et ils sont tout de même ce matin 5e du classement.
On note aussi la victoire des Lyonnais, ça faisait près de 2 mois.
5 matchs qu'ils ne gagnaient plus, succès 3-2 à Strasbourg. Lyon 9e ce matin, ils passent juste devant Saint-Etienne, 10e. Les Stéphanois surpris à domicile par Nice, 3-1, même score pour Nantes face à Brest, Angers-Metz et Monaco-Montpellier, un but partout.
Le rugby, et ça y est, 7 mois après la résidence du 15 de France retrouve ses pensionnaires.
Oui, 7 mois après l'interruption du tournoi des 6 nations pour cause de pandémie, bien sûr, les Bleus vont reprendre du service et finir ce tournoi. Ils sont réunis cette semaine à Marcoussis dans l'Essonne. 6 rencontres au total à préparer, 5 amicales et une capitale, Simon Rubin. La dernière affiche du tournoi des 6 nations reportée au plus fort de l'épidémie.
Et oui, rappelez-vous, en mars dernier, le match France-Irlande avait été reporté à cause d'un virus qu'à l'époque on découvrait encore. Et bien voilà, les Bleus sont réunis pour enfin terminer ce 6 nations. Avant ça, ce samedi, la France accueillera le Pays de Galles, histoire de se mettre en jambes. Et puis l'Irlande, ce sera le week-end suivant. Niveau classement, les Bleus en cas de victoire pourraient décrocher la 2e place du tournoi, voire même la victoire finale. Mais pour ça, il faudrait que l'Angleterre soit battue par l'Italie. Une séquence de 6 matchs qui sera intéressante également pour voir Fabien Galtier et son staff à l'œuvre, puisqu'il s'agit de l'acte 2 du mandat du sélectionneur français.
Et hier, on jouait en top 14, le championnat de France, 5e journée, victoire de Clermont, 41-27 face au Stade français, et succès de Lyon, 62-10 devant Bayonne, classement dominé par Toulouse, La Rochelle
et Pau.
En cyclisme, Julien Alaphilippe doit être opéré aujourd'hui en Belgique.
Le Français champion du monde souffre d'une double fracture à la main droite. Après sa chute hier sur le Tour des Flandres, il a percuté une moto de l'organisation. Il est lourdement tombé. Course abandonnée. La victoire est revenue au Néerlandais Mathieu Van Der Poel, 25 ans. Premier grand succès de prestige sur route pour le petit-fils de Raymond Poulidor. Et cette saison des classiques, elle est terminée désormais puisque Paris-Roubaix, qui devait se tenir dimanche, est annulée.
L'info des sports, tous les matins avec Jérôme Lacroix, juste après le journal de 6h. À demain.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. Et à 6h14, j'accueille à présent l'invité inattendu de ce 5-7. Bonjour à vous, bienvenue.
Bonjour. Eh bien, je m'appelle Lionel Correc et je suis maître de chapelle à l'église Saint-Eustache à Paris.
Merci d'être avec toi. Alors, pourquoi donc l'église Saint-Eustache, vous allez me dire? Eh bien, parce que Laurent Voulzy y a tenu plusieurs de ses concerts. Voulzy qui sort donc son nouveau single aujourd'hui. Et vous nous emmenez donc en coulisses, Lionel Cloarec, puisque vous avez travaillé avec Laurent Voulzy sur sa tournée dans les églises qui se poursuit à travers la France. À tout de suite sur Europe 1. Laurent Voulzy sort un nouveau single aujourd'hui et c'est un homme d'église qui est mon invité inattendu pour parler du chanteur Lionel Cloarec. Vous êtes le maître de chapelle de l'église Saint-Eustache à Paris. Vous avez donc travaillé avec Laurent Voulzy. D'abord, une petite question, c'est quoi un maître de chapelle?
Un maître de chapelle, donc c'est un musicien qui peut aussi composer. Moi, je ne compose pas parce que ça ne me plaît pas trop de faire moins bien que ceux qui font ça très bien. Et qui choisit la musique et fait travailler les chanteurs qui vont chanter pour les grands offices ou les messes, comme Bach par exemple.
Même vous dirigez les chœurs pour les offices qui sont organisés à Saint-Eustache.
Voilà.
Alors on le sait, Laurent Voulzy est plutôt coutumier d'organiser ses concerts dans des églises. Il y a fait ses dernières tournées et est donc passé par chez vous à Saint-Eustache. C'est là que vous l'avez rencontré?
Je l'ai rencontré une première fois juste après un office. On m'a dit bah écoute, il y a quelqu'un qui veut te voir et donc on m'a dit bah c'est Laurent Voulzy. Évidemment, j'ai cru que c'était une blague. Et je me suis retourné, c'était lui tout souriant comme on le connaît et très humble et presque timide d'être dans ce lieu.
Qu'est-ce qu'il voulait savoir?
Il voulait un peu savoir les thèses qu'on utilisait le plus. Et parler en fin de compte avec quelqu'un, je pense, qui faisait ce métier de faire chanter dans les églises tout le temps.
Et ensuite, après, il a voulu que votre chœur participe à son concert.
À la fin d'une tournée, et qui était Listen Love, qui était en 2012. Et donc, il nous a proposé de clore sa tournée avec deux concerts qu'il allait faire à Saint-Eustache et qu'il allait enregistrer pour faire un DVD.
Et donc vous avez répété avec les chœurs, vous avez fait répéter les chœurs sur les chansons de Voulzy, ça a dû vous changer des chants religieux.
Exactement. C'est-à-dire que là, on était hors de notre champ d'action habituel, que ce soit pour les chanteurs ou pour moi. Et, c'était palpitant et très enrichissant, je pense aussi pour lui, parce que voilà, il est venu assister à une répétition dans notre lieu à Saint-Eustache, nous écouter patiemment. Il avait mis des traits précis de la façon dont on devait chanter. Mmh. Mais il a fait ça avec grande gentillesse, venu deux fois en répétition nous écouter. Voilà, très timide en fond, j'étais étonné de ce côté-là et très simple.
L'acoustique est très particulière dans une église, évidemment. Alors, on chante, j'imagine qu'on ne chante pas de la même façon, qu'on ne joue pas de la musique de la même façon. Quel conseil vous lui avez donné, vous, sur la façon de chanter dans l'église? Il vous a posé des questions? Vous l'avez conseillé?
Je lui ai simplement dit que j'ai été étonné qu'il vienne chanter dans une église comme Saint-Eustache, qui est réputée pour être une église qui réverbe énormément. Si on joue trop vite, on ne comprend rien. Et moi, j'étais sceptique sur les micros, tout l'attirail qu'on peut trouver dans une salle de concert, comment ça allait pouvoir sonner à Saint-Eustache. Mais il m'a répondu avec un grand sourire qu'il avait de très bons professionnels avec lui.
Et
j'ai pu juger sur place que c'était assez extraordinaire.
Pourquoi Laurent Voulzy, à votre avis, est autant attaché à chanter dans des églises comme ça?
À parler avec lui et à voir la façon dont il était dans l'église la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé très très serein. Je pense réellement qu'il trouve une certaine paix
pense à être dans une église, qu'il y ait du monde ou pas. Je crois qu'il était en admiration devant le lieu, évidemment, qui est très très grand. Il y a la voûte est de 33 mètres, donc c'est assez impressionnant, donc c'est intimidant. Et aussi le jeu qu'on peut faire avec la voix, avec justement la réverbération, tout ce qui est assez unique dans des lieux comme celui-ci.
Et c'est le lieu qui l'intéresse ou il y a quand même un côté religieux et croyant ?
Oui. Ah, moi, je pense que c'est quelqu'un de très spirituel et qui est en recherche de sérénité, de paix. Et je pense que ça le touche énormément.
Il continue, puisque la tournée va se poursuivre dans toute la France à partir du mois de décembre. Il y a des nouveaux concerts qui sont prévus dans plusieurs églises de France. Et il y a cet album qui est sorti de l'enregistrement de son concert au Mont-Saint-Michel. En attendant, on a ce nouveau single qui sort aujourd'hui et qui s'appelle Lorelai. Merci Lionel Cloarec de nous avoir emmenés en coulisses. Bonne journée à vous.
Quoi. Merci, vous aussi.
Bon réveil avec Europe 1, il est 6h22.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et les grands titres de ce lundi 19 octobre. Après un conseil de défense hier soir, le gouvernement annonce des actions concrètes contre les structures et les associations proches des milieux radicalisés. La sécurité des établissements scolaires sera aussi renforcée au moment de la rentrée des vacances de la Toussaint. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier partout en France en hommage à ce prof d'histoire Samuel Paty assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Et puis le coronavirus, près de 30 000 nouvelles contaminations hier et plus de 1900 patients occupent désormais les services de réanimation.
Europe 1.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On vous retrouve dans quelques secondes sur Europe 1 pour mieux comprendre notre planète. À tout de suite. Il est 6h25, on écoute Le Monde Changer et on regarde notre planète chaque matin avec vous Fanny Agostini. Fanny, on s'arrête ce matin sur un objet devenu commun dans notre quotidien sous Covid, c'est ce fameux masque, mais qui est un fléau pour l'environnement parce qu'il génère d'énormes volumes de déchets.
Alors oui, des déchets en masque, on peut le dire. Deux chercheurs de l'Université de Londres ont travaillé sur ce que représenteraient en volume nos masques jetables si, par exemple, pour l'année à venir, chaque Britannique en utilisait un par jour. Cela produirait, rapporté à toute la population, 125 000 tonnes de déchets. Et ramener à la population mondiale, se protégeant d'un masque à usage unique, on n'ose même pas se figurer la montagne que cela pourrait constituer.
Et encore, vous avez compté un masque par jour, mais on est censé le changer toutes les 4 heures. Donc imaginez
évidemment
si tout le monde faisait ça, des déchets qui sont en plus des déchets plastiques, hein, c'est ça ?
Oui, oui, car les masques jetables sont en polypropylène et en élastomère pour la partie élastique. Il s'agit bien donc de plastiques qui finissent généralement en décharge ou dans l'incinérateur avec le reste de nos ordures ménagères. Ces masques, qui une fois incinérés, laissent des traces sous forme de particules dans l'atmosphère, pouvant impacter nos voies respiratoires. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez insidieux dans ce constat, de se dire que d'un côté, nous nous protégeons d'un virus armé de masques, mais que de l'autre côté, la mauvaise gestion de nos déchets issus de ces mêmes masques est capable de nuire à notre santé.
D'autant que vous nous dites qu'on sait aujourd'hui que le plastique peut se retrouver très haut dans l'atmosphère.
Alors oui, je vais vous dire, je reviens d'une visite à l'Observatoire de physique du globe situé au sommet du Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand, qui a pour particularité d'étudier les nuages et leur composition depuis quelques années. Et ce que les chercheurs viennent très récemment d'apprendre est sidérant et devrait à tous nous faire tendre l'oreille. Vous avez, Sébastien, et vous tous entendu parler des microplastiques dans les océans.
Oui, bien sûr.
Eh bien, selon les dernières recherches, les microplastiques se retrouveraient aujourd'hui dans les nuages, posés sur les gouttelettes d'eau en guise de support qui les ferait voyager au-dessus de nos têtes jusqu'à ce que la pluie tombe, en les déposant au sol. Alors, sans remettre en cause, évidemment, ce matin, l'importance du port du masque dans le contexte actuel, cette découverte doit nous interroger sur les conséquences des mesures sanitaires censées nous protéger au quotidien et pouvant, in fine, engendrer des dommages encore sous-estimés sur le long terme.
Mmh. Ouais, et puis, les masques en tissu réutilisable, c'est pas si mal non plus.
C'est
parfois
une bonne option.
Aussi plus confortable. Enfin, ça dépend. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est quand même pas si mal. Il faut y réfléchir. Merci Fanny Agostini. Notre planète chaque matin à 6h25. À demain.
Europe 1.
Laurent Cabrol pour la météo dans quelques secondes et le journal de 6h30 avec François Geffrier. À tout de suite. Oui, on va retrouver Laurent Cabrol pour cette météo encore fraîche hein, en ce lundi matin, Laurent.
Et même froide, hein, Sébastien. Moins 2 au Puy, 0 à Vichy et Roanne, 1 degré à Romorantin, 2 à Valence et 3 à Lyon, 4 en banlieue parisienne, 7 à Lille, c'est pas chaud, 9 à Toulouse. Alors il y a quand même pas mal de... Enfin pas mal, non, j'exagère. Il y a quelques brouillards. Il y en a vers Beauvais, vers Pontoise. Ce sont des brouillards, disons, très ponctualisés, très ponctuels, pardon, et qui sont, dans l'ensemble, prêts à se dissiper car ils ne sont pas très denses. Mais il y en a, il y a des brumes qui ne sont pas indiquées sur nos cartes et que l'on devine compte tenu de l'humidité dans certains secteurs et dans de nombreux secteurs. Donc soyez prudents, le ciel est voilé et le restera dans le courant de la journée, avec même un voile un peu plus épais près des frontières du nord-est et sur le Languedoc. Bon, c'est pas bien méchant. Nous aurons par ailleurs un temps un peu plus nuageux sur la Bretagne et sur la basse Normandie, là aussi pas bien méchant. Cela veut dire, avec tous ces propos très atténués, que le temps sera dans l'ensemble agréable pour beaucoup d'entre vous. C'est un temps d'hiver, bien sûr, mais il ne sera pas désagréable du tout avec des températures qui, elles, vont bien remonter entre 16 et 21. 21 à Bordeaux, 16 à Colmar et du côté de 19 à Toulouse et Lyon.
Allez, un beau lundi d'hiver au programme. Merci Laurent Cabral, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue à tous et je salue François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h30, votre journal.
Ça rassure, ça émeut aussi, ça réconforte sur la société, sur la force du vivre ensemble.
Rassemblés physiquement et dans les cœurs des dizaines de milliers de manifestants pour la liberté d'expression, venus rendre hommage au professeur assassiné vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. Le Covid-19, sa deuxième vague redoutée et les restrictions sanitaires qui posent d'énormes problèmes financiers aux restaurateurs, les pistes de solutions pour eux dans ce journal. Et puis que deviennent les baby-sitters ? Ces jeunes qui se font un peu d'argent de poche le soir en gardant des enfants, témoignage alors que le couvre-feu a asséché tout revenu possible.
Comment mieux protéger les profs et consolider l'école de la République à l'heure où certains enseignants avouent renoncer à certains cours pour ne pas faire de vagues? Jean-Rémy Girard, professeur de lettres et président du SNALC, le deuxième syndicat en collège-lycée, sera mon invité dans 10 minutes pour en parler. À suivre aussi la revue de presse internationale et l'innovation du jour d'Anissé Mbida. Bienvenue, bon réveil, il est 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gouvernement travaille donc à mieux protéger les établissements scolaires. Le sujet a été abordé hier soir durant les 2h30 du Conseil de défense à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Un plan d'action contre les structures de radicalisation doit être présenté cette semaine. Un hommage national aura lieu pour l'enseignant assassiné Samuel Paty. Ce sera mercredi. Le lieu n'est pas encore défini. On sait simplement qu'il sera emblématique de la République.
Depuis vendredi soir, on a vu des milliers d'hommages sur les réseaux sociaux et dans les rues. Une foule immense hier après-midi. Place de la République à Paris, mais aussi à Marseille et à Lyon.
Ainsi qu'à Lille, une manifestation très digne à laquelle Maximilien Carlier a assisté pour Europe 1.
Pas de cris, pas de slogans, de longs applaudissements. Une Marseillaise et une minute de silence. On entend que le bruit de la fontaine, place de la République. On voit quelques drapeaux tricolores. Les yeux rougis, un père et sa fille portent une affiche.
Merci à mes profs de m'avoir enseigné la liberté d'expression. C'est ma fille qui l'a écrit. Elle est en première année de Sciences Po. Et ça lui est tenu à cœur de délivrer ce message.
On vous sent ému ?
Ça me touche, c'est un message qui me touche.
Les larmes coulent sur le visage de cette étudiante. Ici, un peu moins d'un millier de personnes sont rassemblées.
Ça rassure, ça émeut aussi, ça réconforte sur la société, sur le vivre ensemble. Sur la force du vivre ensemble.
Les gens viennent un dimanche de manière spontanée. C'est à la fois triste, hein, c'est vrai, mais en même temps, ça permet de se projeter, puis de se rendre compte que les gens sont affectés, qu'il y a quelque chose se passe, qui est très profond, je trouve.
Le besoin de se retrouver et une mobilisation qui rappelle celle qui a suivi les attentats de Charlie Hebdo. Lille, Maximilien Carlier, Europe.
À Paris, dans l'assistance des anonymes, des élus politiques, des militants associatifs et puis aussi des membres de la communauté musulmane comme Hassan Chalgoumi, le président de l'association culturelle des musulmans de Drancy, qui est effrayé par ce qui est arrivé.
Cet acte barbare, malheureusement, ça nous donne la conscience en cause de la gravité de l'islamisme qui existe, qui touche notre jeunesse. Notre jeunesse, elle dérive, elle devient une ennemie, elle devient une menace à la société. Et là, je pense que c'est notre travail tous, quels que soient les religieux, les laïcs, de travailler ensemble pour qu'on ne cède pas et aussi on lutte contre cette minorité. C'est la laïcité la solution, de séparer le pouvoir de la religion. Et aussi, c'est une menace, parce que le modèle français dérange les islamistes. Je pense que la fermeté, ça c'est la solution numéro un, et aussi enseigner la liberté, le respect des autres. On peut avoir des avis différents, on peut être en désaccord, mais jamais à la violence, jamais à la haine.
L'imam Hassen Chalgoumi au micro européen de Jean-Gabriel Bourgeois.
Deux rendez-vous à vous signaler juste après le journal. Donc mon invité Jean-Rémy Girard, le président du SNALC, le deuxième syndicat dans le secondaire. Et à 8h15 ce matin sur Europe 1, la première interview du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, face à Sonia Mabrouk. Ce sera juste après le journal de 8h.
Dans l'actualité ce matin, les chiffres records des contaminations au Covid en France. 32 000 recensés samedi, 29 800 hier, et le nombre de patients en réanimation qui augmente toujours, ils sont plus de 1900.
Le couvre-feu est en vigueur depuis ce week-end, ce qui plombe une nouvelle fois l'activité des restaurateurs. Ils font remonter deux problèmes principaux, Carole Ferry.
Premier point, les loyers. C'est l'une des charges fixes qui pèse le plus lourd sur la trésorerie des restaurateurs. Alors parfois, ces loyers, ils sont payés à la mairie et là, souvent, des accords sont trouvés à l'amiable. La mairie de Paris, par exemple, a offert les loyers des terrasses pour passer la crise. Mais quand il s'agit de bailleurs privés et parfois de petits propriétaires, c'est plus compliqué. Alors la réflexion qui est en cours à Bercy, c'est la mise en place d'un crédit d'impôt. Un propriétaire qui accepte de faire cadeau d'une partie du loyer pourra déduire ce montant de ses impôts. L'autre difficulté, ce sont les congés payés. Le chômage partiel prend bien en charge 84% du salaire net des salariés. Mais dans la restauration, les congés payés ne sont pas inclus dans ce salaire. Ils représentent 10% à la charge de l'employeur. Et quand vous avez plusieurs salariés sans rentrée d'argent en face, eh bien la facture peut grimper très vite. Et là, c'est le ministère du Travail qui réfléchit à une solution qui pourrait être présentée cette semaine.
Carole Ferry, autre effet collatéral du couvre-feu qui est peut-être bénéfique pour votre portefeuille, mais pas pour celui des lycéens et étudiants. La fin de tout babysitting, et ce, alors que les petits boulots d'été et les jobs étudiants étaient déjà tombé au plus bas.
Un coup dur notamment, et par exemple pour Marine, cette étudiante en troisième année d'une licence de psychologie à Lille.
Quand j'ai entendu parler du couvre-feu, ça a direct tilté. Je me suis directement dit, ça y est, j'aurai plus de travail pour le week-end. J'essaie de comprendre un peu parce que je me dis que c'est pour la santé de tout le monde. Donc après, c'est sûr que nous, les étudiants, on est très 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 délaissés avec cette situation. Enfin, moi personnellement, j'ai reçu aucune aide de la part de l'État pour m'aider à payer mes factures ou mes projets que j'avais déjà engagés. Je comptais sur mes babysitting pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir m'acheter une voiture. J'avais un stage à réaliser pour ma troisième année pour pouvoir intégrer un master, et sans voiture, ça va pas être pratique. Ça peut représenter jusqu'à 300 euros, voire un peu plus que ça même. 300 euros par mois, c'est pas négligeable. J'ai réussi à me trouver un petit contrat de 3 heures pour essayer de limiter les dégâts. C'est sûr que c'est pas des babysitting le samedi matin qui vont remplacer mon salaire.
Voilà, malheureusement, il n'y a pas de chômage partiel pour les babysitters. Propos recueillis par Laura Taouchanoff.
Et c'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, il est 6h37. L'école de la République face à la barbarie. Nous revenons sur l'attaque de vendredi avec un enseignant ce matin, l'invité du 5-7. Bonjour Jean-Rémy Girard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur de lettres, vous présidez le SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Et vous étiez place de la République hier. Un hommage, une marche. Et après, comment mieux protéger les enseignants? On en parle dans une minute, à tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1, c'est donc un professeur de lettres qui est l'invité du 5-7. Jean-Rémy Girard, vous présidez le SNALC, deuxième syndicat du secondaire. Vous étiez place de la République hier avec ce rassemblement qui nous rappelle les images de janvier 2015 au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. À ce moment-là, déjà, on se souvient que certains élèves disaient ouvertement qu'ils n'étaient pas Charlie. Que s'est-il passé depuis? Rien n'a changé depuis 5 ans?
Non, je dirais pas que rien n'a changé, puisque il y avait quand même eu une prise de conscience assez forte hein, à l'époque. On sait que nos élèves, ils n'ont pas tous le même avis. On a eu quand même énormément de collègues qui ont, depuis 2015, fait comme Samuel Paty, hein, comme notre collègue assassiné, c'est-à-dire qui ont travaillé sur la liberté d'expression, sur la laïcité, sur la liberté de la presse, et qui ont travaillé à partir d'ailleurs de caricatures de Charlie Hebdo. Hein. Ce que faisait Samuel Paty, il n'était pas seul à le faire. Donc on a quand même beaucoup, beaucoup œuvré, je pense, toutes et tous, pour expliquer ce qui s'était passé en 2015 et pour faire comprendre aux élèves qu'on avait parfaitement le droit d'être d'accord, d'être en désaccord. On avait parfaitement le droit d'être choqué ou de pas être choqué par une caricature, mais qu'il y avait des valeurs, qu'il y avait les lois, surtout aussi de la République, que la France, voilà, ça permettait de blasphémer et que ensuite chacun avait pouvait avoir son avis sur la question.
Et à côté de ça, d'autres enseignants, et on les a entendus y compris dans les reportages des reporters d'Europe 1 hier dans les différents rassemblements, certains avouent renoncer à évoquer ces sujets, ne pas parler du Coran alors que c'est au programme, où on nous demande de ne pas faire de vagues, on ne veut pas d'ennuis, ça arrive aussi. Les enseignants sont conduits à renoncer de faire ces enseignements.
Ça arrive aussi. Souvent, c'est pas forcément ne pas aborder le sujet, mais souvent, c'est l'aborder d'une certaine manière, faire très attention à la façon dont on le présente aussi. Ça peut être tout ça. C'est très très loin d'être dans tous les établissements de France. Hein. Ce n'est pas le cas. Ça arrive surtout en histoire. Ça arrive parfois en sciences de la vie et de la terre également, hein, quand on aborde donc des sujets liés à la religion ou liés à la sexualité. Oui, ça existe. Mais ça n'existe pas que depuis cette année, hein. D'ailleurs, ça existe depuis assez longtemps, ça.
Alors, que faut-il faire pour l'avenir? On va en dire un mot. La première étape, le Conseil de défense hier soir a décidé de renforcer la sécurité dans les établissements scolaires. Il y a plus de 60 000 établissements en France, on fait comment? Il faut mettre des policiers devant les grilles?
Mais là, pour le coup, moi, je veux bien qu'on protège les établissements scolaires. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Le SNALC a pas de souci avec ça. Mais là, le problème qui a eu lieu, il est pas spécialement lié à la sécurité juste devant l'établissement scolaire. Il y a quand même beaucoup de choses à faire au niveau de la lutte contre le terrorisme islamiste, y compris et notamment là sur les réseaux sociaux, puisque c'est quand même là-dessus que toute la mayonnaise a pris. Tout le monde était au courant, hein, de ces vidéos depuis qu'elles existaient. L'institution était au courant, l'institution avait même incité, hein, notre collègue à porter plainte. Nous, c'est pas protéger tout le monde tout le temps, ça on sait bien que c'est pas possible, mais un collègue qui est dans cette situation là, lui, peut-être que là, oui, on aurait dû lui donner une protection spécifique. Il va y avoir une enquête interne à l'Éducation nationale, on va pouvoir établir s'il y a des responsabilités. Le but du jeu, on pourra pas malheureusement changer, hein, ce qui s'est passé. Le but du jeu, c'est qu'un tel enchaînement de faits ne puisse pas se reproduire. C'est là-dessus, nous, qu'on veut travailler.
Vous citiez les réseaux sociaux qui sont ici le point de départ. Ça arrive souvent comme ça que des enseignants se fassent pointer du doigt nommément sur les réseaux sociaux.
Nommément, c'est relativement rare, mais que des enseignants se fassent pointer du doigt, ça arrive qu'on remette en cause les enseignants, ça arrive, enfin, qu'on filme une classe quand on déclenche un chahut dans la classe, ça arrive aussi. Ce sont des choses que l'on connaît, qui sont elles de plus en plus courantes, et on n'a aucun moyen d'action par rapport à ça. La plupart du temps, nous, on ne sait pas que ça existe, en fait, nous enseignants, et c'est là où il faut quand même qu'il y ait au niveau des services de renseignement et dans le lien qu'ils ont avec l'Éducation nationale, qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment efficace. C'est très très important parce que ça circule à toute vitesse, ce type d'information, et ce type d'information d'ailleurs souvent fausse, hein, comme c'était le cas ici.
Et on comprend aussi à travers cette histoire que très souvent, ce sont les parents qui ajoutent encore de l'attention lorsqu'il y a un problème et qui viennent soutenir leurs enfants.
Ce sont des parents, je dirais. Ce sont pas tous les parents. On a beaucoup de bonnes relations avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents. Il faut aussi le dire. Mais c'est vrai que contrairement aux élèves avec lesquels on peut gérer la situation en interne, et vous avez mentionné qui est le pas de vague, où là aussi on a besoin du soutien de la hiérarchie, bien entendu, mais les parents, on n'a aucun moyen d'action sur eux, on n'a aucun levier véritable sur eux, sinon le dialogue. Et quand un parent refuse de dialoguer ou s'est enferré dans quelque chose, parce que aussi parfois il est lui-même manipulé, hein, c'était quand même pas mal le cas ici, hein, visiblement, il y avait quand même un individu tout à fait extérieur à l'école qui jouait un sale rôle dans cette histoire. Nous, on est parfaitement démunis face à ça. Nous, on éduque les enfants, on n'éduque pas les adultes.
Est-ce que vous vous sentez soutenu? Vous parliez de la hiérarchie. Est-ce que vous vous sentez appuyé par la hiérarchie? Est-ce que les cas remontent quand ils se produisent?
Alors sur la laïcité, mais beaucoup de nos collègues ne le savent pas, hein, sur les atteintes à la laïcité, on peut les faire remonter directement. Ça veut aussi dire quelque chose, hein, si le ministère a mis en place un système de remontée directe en plus du système par voie hiérarchique, c'est peut-être que le ministère se rend compte aussi que bah, parfois tout ne remonte pas. Mais beaucoup de chefs d'établissement se retrouvent parfois entre le marteau et l'enclume, où on leur demande, on dit à la fois c'est important que tout remonte, etc. Et où en même temps, il faut faire attention que leur établissement soit pas forcément, j'allais dire, stigmatisé au niveau du système. Voilà, disant, oulala, mais qu'est-ce qui se passe chez vous ?
Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin, Jean-Rémy Girard, professeur de lettres et président du SNALC, le deuxième syndicat dans les collèges et dans les lycées. Bonne journée à vous, merci.
Merci.
Europe 1.
Anis Mbida pour l'innovation du jour dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h48 sur Europe 1 et c'est l'heure de l'innovation du jour avec Anis Mbida. Bonjour Anis.
Bonjour Sébastien.
Nos téléphones sont décidément des couteaux suisses, on fait tout avec. On avait déjà la boussole, le GPS, l'altimètre et tant d'autres choses. Un nouveau capteur arrive, très utile en cette période de pandémie, le thermomètre. On va pouvoir prendre sa température ou celle de ses proches, c'est pas une blague, avec son téléphone portable.
Oui, absolument. C'est la nouvelle petite fonction à la mode. Plusieurs appareils viennent d'être lancés coup sur coup. Jusqu'ici, ils étaient plutôt réservés à l'Asie, la Chine, au Japon, etc. Mais un premier modèle va être disponible en Europe. Il sera présenté jeudi par Huawei. Et je pense qu'ensuite, ça devrait progressivement se généraliser. Alors, comment ça marche, ce thermomètre ? C'est un thermomètre qu'on appelle infrarouge. C'est-à-dire qu'il fonctionne à distance, comme ceux qu'on utilise à l'entrée de certains bâtiments. Alors, c'est tout simple. Le capteur est à l'arrière, à côté de l'appareil photo. Il suffit de lancer l'application, de pointer le front de la personne et il va donner la température de surface. Et ça marche avec les personnes, mais aussi votre chien, votre chat, ou n'importe quel objet.
Comme ça, on peut le faire sur tous ses amis avant d'accepter éventuellement de déjeuner avec eux. C'est aussi fiable qu'un vrai thermomètre ?
En principe, oui. On annonce une précision au dixième de degré près pour des mesures entre moins 20 degrés et plus 100 degrés. Mais attention, on parle de température de surface et tous les médecins vous le diront, c'est la température interne qui compte vraiment. Et puis, on le rappelle, la fièvre peut être un indicateur du Covid, mais ça peut être complètement autre chose. On peut même être infecté et n'avoir aucune fièvre. En tout cas, si on a un thermomètre sur son téléphone, j'imagine que ça ne va pas servir simplement à prendre la température de ses copains. Ça peut tout simplement servir à éviter de se brûler ou avec une tasse, par exemple, ou à vérifier la température du biberon du bébé ou bien du bain. Donc, c'est, comme vous le dites, une lame de plus dans ce fameux couteau suisse qui est devenu notre téléphone portable.
Le thermomètre, donc, pour prendre sa température avec son téléphone. L'innovation du jour avec Anis Mbida. Merci Anis, et à demain. À 6h10, c'est l'heure d'ouvrir notre revue de presse internationale et nous allons commencer en Italie. Bonjour Blandine Hugonnet.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux à Rome ?
Eh bien, à la une ici, ce sont les nouvelles restrictions anti-Covid. Un nouveau tour de vis pour éviter le reconfinement général, titre La Repubblica. Mesure principale, de petits couvre-feux instaurés localement. Il Tempo explique, le gouvernement donne le pouvoir à chaque maire de fermer les rues et les places trop fréquentées dès 21h. Pour les restaurants et les bars, nouvelles règles aussi, ajoute le Corriere. Maximum 6 personnes à la même table et s'il n'y a pas de service à table, c'est fermeture à 18h. Bref, ces mesures doivent limiter les rassemblements, car l'Italie aussi est touché par la seconde vague, relève Il Messaggero, et preuve que la situation est critique. C'est la première fois depuis 4 mois que le président du Conseil est allé en direct à la télévision pour faire ses annonces, remarque Il Fatto Quotidiano. Pour le Giornale, en revanche, ce tour de vis semble un peu timide, mais il a le mérite d'éviter de donner le coup de grâce à l'économie italienne.
Merci Blandine Hugonnet, correspondante Europe 1 à Rome. Deuxième étape, direction Berlin. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une en Allemagne ?
La presse allemande revient sur l'appel lancé ce week-end par Angela Merkel à ses compatriotes, un appel dramatique selon le Merkur. S'il vous plaît, restez chez vous autant que possible. Les mots sont encore à la une de plusieurs journaux comme le Bild. Pour lutter contre l'avancée du virus, chaque jour compte, dit-elle. Ce sont les extraits d'une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux pour contourner les limites de son pouvoir, commente le Süddeutsche Zeitung. Car en effet, la semaine dernière, plusieurs restrictions voulues par Merkel ont été annulées par des tribunaux allemands qui refusent l'instauration de ce qu'ils appellent un état d'urgence sanitaire à la française. Conséquence, à Berlin, par exemple, certains restaurants peuvent maintenant rouvrir le soir. Actuellement, en moyenne, l'Allemagne enregistre 6000 nouveaux cas par jour.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1 et nous terminons ce tour du monde de l'autre côté de l'Atlantique, au Chili. Bonjour Rodvillier Moriamé.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui occupe les journaux chez vous ?
Alors tous reviennent sur la grande manifestation organisée hier à Santiago, un rassemblement pour célébrer l'anniversaire du début du mouvement social contre les inégalités. Au moins 25 000 personnes sur la Plaza Italia, titre la radio Bio Bio, qui a tenu toute la journée un live sur son site pour couvrir l'événement. Manifestation qui se tenait à une semaine d'un référendum historique. Le 25 octobre, les Chiliens vont voter pour ou contre une nouvelle constitution pour remplacer celle adoptée sous la dictature de Pinochet. Le quotidien conservateur La Tercera recense, lui, les incidents survenus en marge de la manifestation, des pillages de supermarchés et au moins deux églises brûlées, parmi lesquelles celle des Carabineros, la police chilienne très contestée. Le journal en ligne El Mostrador publie justement le résumé d'une étude universitaire sur les pratiques violentes de la police, un rapport qui dénonce les actes de torture et de cruauté pratiqués par les Carabineros depuis le début du mouvement social.
Aude Villiers-Moriamé, au Chili, pour Europe 1. Nous étions à Santiago, à Berlin, à Rome, dans votre revue de presse internationale ce matin. Il est 5h53. Europe 1. La météo de Laurent Cabrol et le 7-9 de Mathieu Béliard qui démarre avec le journal d'Hélène Zélani. C'est dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.